6h57, je vous souhaite un bon réveil, une très belle journée. Je vous retrouve demain dès 5h du matin pour démarrer la journée ensemble et je vous laisse pour le 7-9 avec Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, j'allume mon micro, ça marche mieux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Europe 1, mercredi 16 décembre 2020. Vous écoutez Le Monde Changé.
Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel.
Europe 1 s'associe et vient en aide au monde de la culture. Jusqu'à Noël, tous les matins, 8h35, nous allons passer un coup de fil à des artistes, à des comédiens, chanteurs, humoristes. Et ensemble, nous parlerons de leurs projets futurs, de la période aussi, comment ils la vivent. Et surtout, on va vous donner plein de conseils pour continuer à lire, à écouter, à voir. Et pourquoi pas quelques idées cadeaux à quelques jours de Noël. On va ouvrir le bal ce matin avec un comédien et un chanteur. Sur Europe 1, 8h30, le comédien Jean-Paul Rouve et Grand Corps Malade, dont vous avez entendu quelques notes avec ce morceau pas essentiel paru la semaine dernière et tout à fait de circonstance. Sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé et on vous propose un peu de perspective. Aujourd'hui, je reçois l'économiste Benjamin Coria. Cette crise du Covid est-elle un entraînement? Notre modèle de production, d'élevage, de déforestation aussi, nous promet-il des pandémies à répétition? C'est la théorie de Benjamin Coria. Je ne suis pas non plus en train de vous promettre le confinement permanent, rassurez-vous. C'est une théorie à laquelle il oppose des solutions. Benjamin Coria, invité du tête-à-tête Europe Matin. Ces solutions, elles passent par la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, par la préservation de la biodiversité. Alors attention au piège du référendum, nous dira Nicolas Bétou dans son édito politique. Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise, est l'invité d'Europe Matin à 8h15. Les tests, la campagne de vaccination, la gestion de la crise du Covid par le gouvernement. Trois rendez-vous, vous aurez compris, trois rendez-vous à bien noter ce matin. Adrien Quatennens, la politique à 8h15. Le tête-à-tête Europe Matin, on va réfléchir sur le long terme, à ces pandémies qui pourraient se multiplier, puis la culture. Jean-Paul Rouve et Grand Corps Malade à 8h30. Vous ne manquerez de rien ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et on va commencer par la promesse que je vous ai faite à 6h30. Je vous ai dit, quel est le jour qu'il faut choisir pour faire vos courses, samedi ou dimanche? Eh bien, choisissez dimanche. C'est ouvert, hein, bien sûr, en général, c'est ouvert maintenant. Ce samedi, il va pleuvoir sur quasiment toute la France. Pour aujourd'hui, c'est un temps, ma foi, assez souriant. Il y aura bien sûr des pluies sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique, bien sûr des nuages sur la basse Normandie, la vallée de la Loire et le Poitou-Charentes, nuages inoffensifs, mais et peut-être même quelques pluies sur le bassin méditerranéen, mais partout ailleurs ce sera du soleil. Sud-Ouest, Massif Central dans son ensemble, le Berry, la région parisienne, la Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, bref, sur les deux tiers de la France, même, oui, les deux tiers de la France, nous aurons un temps ensoleillé. Température maximale 10 degrés au Creusot, à Montcenis et à 10 degrés à Lille aussi, 11 à Strasbourg, 12 à Caen et à Paris, 13 à Poitiers, nous attendrons 14 à Toulouse, 15 à Bordeaux et 17 à Marseille.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
Pour l'instant, on a pris toutes les précautions vis-à-vis de la famille jusqu'à maintenant, donc je me dis qu'on n'est pas à deux jours près.
Ne pas envoyer les enfants à l'école demain et vendredi pour limiter les risques de contamination à Noël. L'idée lancée hier par Jean Castex sur notre antenne ne fait pas franchement l'unanimité. La stratégie vaccinale du gouvernement aujourd'hui à l'Assemblée, coup de projecteur sur les antivax, ceux qui tentent de dissuader les Français de se faire vacciner.
J'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille.
Dans ce journal, cette annonce surprise de la maire de Marseille, Michèle Rubirola, elle jette l'éponge pour raison de santé, colère de l'opposition et incompréhension de nombreux Marseillais. Le jour du verdict, au procès des attentats de janvier 2015, et puis un concert de musique classique au milieu d'un supermarché. Quoi de mieux pour sensibiliser à la détresse du monde de la culture?
Juste après ce journal, les perspectives d'emploi pour 2021, les économistes sont divisés. L'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouet. Un an après avoir dénoncé les violences sexuelles dans le monde du patinage artistique, Sarah Abitbol est bien seule aujourd'hui, ça c'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1, écoutez Le Monde Changer.
Depuis hier, vous le savez, le deuxième confinement est levé et pourtant, le Premier ministre recommande une sorte de nouvel auto-confinement. Vous avez sans doute entendu Jean Castex hier matin sur Europe 1. Il suggérait de ne pas envoyer les enfants à l'école demain et vendredi.
C'est au départ une recommandation du Conseil scientifique. Mais l'idée fait grincer des dents, notamment du côté des enseignants et des syndicats. Olivier Flipot est directeur d'école SE-UNSA à Cergy dans le Val d'Oise. Il n'a pas de mots assez forts pour critiquer la mesure.
C'est de la cacophonie. C'est irresponsable, c'est complètement contradictoire.
Alors que aujourd'hui nous rentrons dans une période de déconfinement, il est maintenant demandé aux élèves de s'autoconfiner. Quelle est la logique? Alors qu'on nous demande de récupérer des retards et de veiller à une réduction d'écart entre les élèves, alors que le mot d'ordre et la fréquentation de l'école est obligatoire, maintenant on demande aux élèves de s'autoconfiner. Au début, on avait Monsieur Blanquer qui nous disait « il y a plus de risques à rester chez soi que d'aller à l'école ». On a toujours dit que les élèves n'étaient pas contaminants ni contaminés. Pourquoi le seraient-ils maintenant ? Pourquoi serait-il important ou urgent de s'autoconfiner ? Qu'en est-il des personnels ?
Question posée par ce directeur d'école, interrogé par Virginie Salmen.
Et les parents d'élèves, ils comptent faire comment ? Garder les enfants à la maison ou pas ces deux prochains jours ?
Benjamin Péter leur a posé la question à Toulouse.
De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. Avec beaucoup les parents de travail, on ne peut pas faire autrement.
Pour beaucoup de parents, comme Samir, la question ne se pose pas. Son fils ira à l'école demain et vendredi. Mais même pour Sophie, qui pourrait garder ses enfants, pas question de lui faire rater ces deux derniers jours.
Ils finiront la semaine normalement, pour profiter des préparatifs de Noël avec l'école. Pour l'instant, on a pris toutes les précautions vis-à-vis de la famille jusqu'à maintenant, donc je me dis qu'on n'est pas à deux jours près.
En revanche, à partir de vendredi soir, dans la famille d'Anne-Laure, plus question de voir qui que ce soit avant le réveillon.
Déjà, ils ont vu très peu de monde, et là, il y a zéro exception jusqu'à Noël. S'ils veulent voir un copain, c'est après.
Mais là, jusqu'à ce qu'on voit papy et mamie ?
Non, on voit personne. Entre 5 jours sans voir personne, plus les masques, plus on l'a eu au mois d'octobre, bon, je pense qu'on est bon.
Myriam, elle va plutôt compter sur les tests. Elle s'est déjà fait tester et elle envisage de le refaire.
Je suis allée en pharmacie me faire tester pour rassurer en fait mes parents, les grands-parents, mais on peut l'avoir attrapé depuis. Donc c'est tout à fait possible que je le refasse pour les re-rassurer.
Et pour limiter les risques, certains ont même complètement changé leurs habitudes par rapport à un réveillon traditionnel, quelques jours sur la Côte Basque pour les uns, ou même à l'étranger pour d'autres, très loin de la famille élargie. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
L'isolement pour protéger ses proches en attendant un vaccin. C'est aujourd'hui que le gouvernement présente sa stratégie vaccinale à l'Assemblée.
Selon le sondage de Santé publique France en novembre, seuls 53% des Français veulent se faire vacciner. Une défiance alimentée par les anti-vax, une nébuleuse active bien avant le Covid et souvent menée par des figures des théories complotistes. Théo Manval.
Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les vaccins.
Ces vidéos sont vues des dizaines de milliers de fois sur YouTube où il compte 37 000 abonnés. Comme nombre de figures anti-vaccins, Philippe Weber se présente comme un conférencier éveilleur de conscience. Actif surtout sur les réseaux sociaux, il dénonce les nouveautés des vaccins Pfizer contre le Covid.
Le vaccin ARN consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules où il y a un fort risque que l'ADN du vaccin se rétro-transcrit sur le génome humain. Alors là, on parle vraiment de manipulation génétique.
Ce que les connaissances scientifiques démentent, hein, l'ARN de ces vaccins ne peut pas se transformer ici en ADN humain. Mais le grand public peut être d'autant plus porté à croire ces discours qu'ils sont parfois tenus par des médecins. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Un expert isolé de ses confrères, mais qui prend la posture du lanceur d'alerte au cœur du système, comme aujourd'hui le professeur Christian Perronne à l'hôpital de Garches.
Comme ça que tous les gouvernements se lancent à la surenchère. Je pense qu'il y a une manipulation de la science. Par qui, par quoi, je ne sais pas. Poser la question.
Avec les ressorts des discours complotistes, mélange entre questions légitimes sur ces nouveautés médicales et extrapolation sans apporter de preuves.
Et puis tiens Hélène, puisqu'on parle d'extrapolation sans apporter de preuves, certains savent surfer sur cette tentation complotiste. Écoutez cet extrait d'une pub pour l'offre 5G de Free, ça vient d'être publié.
La 5G fait pousser un troisième téton ?
J'ai un ami dans les services de renseignement nord-coréens qui m'a donné cette information.
Et cette voix que vous entendez, c'est Xavier Niel, le patron de Free lui-même. 7h05 sur Europe 1. La deuxième ville de France n'a plus de maire. Après moins de 6 mois en poste, Michel Rubirola démissionne.
J'ai connu avant l'été des premières difficultés liées à ma santé. J'ai dû subir à la fin du mois de septembre une intervention chirurgicale et j'ai été transparente sur ce sujet. Ces épreuves ne m'empêchent pas de servir les Marseillaises et les Marseillais. Mais elle limite l'énergie que je peux mobiliser. Et c'est pour ces raisons que j'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. Nous sommes une équipe, j'ai toujours parlé de collectif, et je sais que cette réalité déconcerte et interroge. Je sais que le duo que nous formons avec Benoît Payan intrigue. Nous formons un binôme, et je souhaite que notre binôme continue, mais s'inverse, et que Benoît devienne maire.
Michel Rubirola, médecin, novice en politique, avait été élu grâce à une union de la gauche, le printemps marseillais. Elle propose donc une sorte d'échange. Son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, deviendrait maire à sa place. Et elle, première adjointe, un hold-up pour l'opposition et des espoirs déçus pour ses électeurs. Reportage de Stéphane Frangy.
Assez peu surpris, au final, les électeurs de Michèle Rubirola ne cachent pas leur déception.
Parce qu'il y avait beaucoup d'espoir qui reposait sur elle. Je pense qu'elle n'aurait pas dû se présenter, parce que lorsqu'on prétend un titre comme celui de maire de Marseille, on doit l'assumer jusqu'au bout. C'est une mascarade, elle nous a fait perdre du temps. On la voit pas beaucoup et elle n'avait pas l'air très à l'aise dans son rôle-là.
Mais ça n'avait pas échappé aux Marseillais. L'élu, souvent effacé, semblait fuir la lumière, à l'inverse de son premier adjoint, Benoît Payan.
La rumeur circule déjà dans Marseille depuis un petit moment. Je pense que c'était écrit à l'avance. De son propre aveu, le costume était un peu trop grand pour elle. Vous connaissez le jeu des alliances. C'était elle qui était tête de liste, mais tout le monde savait que c'est Benoît Payan qui dirige.
Benoît Payan qui avait déjà assuré l'intérim d'une Michèle Rubirola convalescente à la mi-septembre, et les élus du printemps marseillais, à l'image de la quatrième adjointe Olivia Fortin, soutiennent ce choix.
On a pu, pendant la période d'absence de Michèle liée à ses ennuis de santé, avoir un aperçu de ce que pouvait être la gestion exercée par Benoît. Benoît Payan est tout à fait au cœur des dossiers, puisque depuis le début, ils travaillent ensemble avec Michèle Rubirola main dans la main, et on le trouve tous légitimes pour ce rôle-là.
Et le nouveau maire, qui doit être élu en conseil municipal, le prochain est justement prévu pour lundi. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Ce mercredi marque la fin d'un procès fleuve, celui des attentats de janvier 2015, 3 mois d'audience chaotique et aujourd'hui, place au verdict.
Oui, la Cour d'assises spéciale de Paris se prononce sur le sort de 14 soutiens présumés des auteurs de ces attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Des peines de 5 ans jusqu'à la perpétuité ont été requises. Un procès pour l'histoire, mais bien peu de réponses pour les proches des victimes comme Bruno Lévy. Son beau-frère Michel Saada a été assassiné à l'Hyper Cacher.
On n'aura pas de réponse. A priori, hélas, on a bien compris que la plupart des accusés se dérobent, ils ne se sentent pas coupables, ils n'ont rien à voir avec les faits de terrorisme qui se sont passés. C'était quelque chose de dur. Donc, hélas, on n'attend rien qu'un verdict, j'espère qu'il sera exemplaire, sévère. J'espère que les peines montreront bien que sans ces maillons, il n'y aurait pas de chaîne, et s'il n'y a pas de chaîne, il n'y aurait pas eu d'attentat. Maintenant, ça ne va pas apaiser la douleur de notre famille. Il y a des enfants qui seront orphelins, ma sœur sera veuve et des petits-enfants ne verront jamais leur grand-père, on leur en parlera, mais c'est tout. Donc là, c'est une plaie en fin de compte qui ne se referme jamais.
Bruno Lévy au micro de Justin Morin. Verdict attendu à partir de 16h. Et puis, au procès de l'attaque du Thalys, la perpétuité a été requise contre l'accusé. Verdict demain. Un anniversaire aujourd'hui, les 50 ans d'un film culte de Jacques Demy. Podane avec Catherine Deneuve et sa robe aux couleurs du temps, obligée d'épouser son père, elle tente d'échapper à son sort. Il y a bien sûr cette bande originale signée Michel Legrand avec des chansons encore plus modernes qu'on ne pouvait l'imaginer. Angèle Châtelier.
Préparez votre part. La bande originale de Podane signée Michel Legrand est avant-gardiste, ce que confiait Jacques Demy au micro d'Europe 1 à la sortie du film en 1970.
Michel a fait à la fois une musique classique, un thème qui est fugué, et également des chansons très modernes où on y mélange l'orgue électrique et aussi des guitares.
Les paroles sont parfois subversives. Une chanson illustre notamment l'un des thèmes du film, l'inceste.
Mon enfant n'épouse jamais ses parents.
Dans la chanson Rêve secret d'un prince et d'une princesse, les deux amoureux se promènent dans les bois, chantent leur amour, jusque-là rien d'anormal.
Mais qu'allons-nous faire?
Mais en tendant l'oreille sur les paroles, on remarque qu'elles font un clin d'œil aux us et coutumes de la communauté hippie et leur paradis artificiel.
Nous fumerons la pipe en cachette.
Nous nous gaverons de pâtisserie.
Podane aura été moderne par sa musique, mais aussi par ses costumes d'époque dans un univers enfantin, ses effets spéciaux ou encore l'irruption d'un hélicoptère qui dépose le roi et la fée dans la scène finale.
Angèle Châtelier, j'avoue, j'ai essayé de le faire moi aussi, le cake d'amour.
Ah non.
Le cake d'amour. Encore de la
ça
musique.
Ça marche pas. Hein. Il y a plein de spécialistes de la cuisine qui ont essayé la recette du cake d'amour, ça ne marche pas.
Mais au moins, c'est bien d'essayer. Encore de la musique, je vous le disais, avec le violon de Renaud Capuçon pour appeler à sauver la culture. Hier, le musicien s'est installé par surprise devant le rayon livre d'un supermarché de sa ville natale, Chambéry. Scène irréelle, 20 minutes de concert devant des clients, poussant leur caddie. Et sur Twitter, Renaud Capuçon a diffusé ce concert avec cette légende parce que la culture ne doit jamais s'arrêter.
Et je vous l'ai dit, hein, à 8h30, Europe 1 ouvre son antenne aux artistes, aux créateurs justement. La culture, c'est essentiel. Nous serons avec Jean-Paul Rouve et Grand Corps Malade à 8h30 tout à l'heure. Merci Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous êtes lassé de cette crise du Covid qui a rythmé 2020, j'ai la réponse. Et s'il fallait s'y habituer, si nous étions entrés dans une ère d'épidémie, de pandémie à répétition, c'est la conviction de mon invité à 7h40, tout à l'heure l'économiste Benjamin Coria, alors que ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche annonce la création d'une agence pour le suivi des maladies émergentes et infectieuses, le tête-à-tête Europe Matin, c'est à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est une certitude. Après l'année terrible qu'aura été 2020, la croissance va rebondir l'an prochain. Mais quid de l'emploi ? La question divise, la question fâche.
Oui, vous savez, notre ami Laurent Cabrol ne se trompe jamais, mais les économistes, ça leur arrive, et il faut espérer qu'ils se trompent, car la météo qu'ils nous annoncent pour le marché de l'emploi l'an prochain est très grise. Et c'est ce qui fâche le gouvernement, parce que jamais, ou rarement en tout cas, on a vu un tel écart entre les prévisions officielles, qui sont plutôt optimistes, et celles des économistes, qui le sont beaucoup moins. Notre économie, vous le savez, aura détruit environ 800 000 emplois cette année. C'est considérable, mais si on en croit les prévisions du gouvernement, elle devrait en recréer 400 000 l'an prochain.
Ça, c'est le scénario du rebond.
Oui, et qui s'appuie sur un rebond attendu de la croissance de 5% l'année prochaine, après un décrochage historique de 9% cette année. Mais si ce rebond de la croissance fait consensus, ça n'est pas le cas, en revanche, pour l'emploi. L'OFCE, qui est un institut de conjoncture réputé, n'anticipe aucune création nette d'emplois l'an prochain. La Banque de France est à peu près sur la même ligne, avec seulement 45 000 emplois nets en plus en 2021. Bref, on est très loin des 400 000 du gouvernement. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'économie a subi un tel choc, tellement inédit, qu'on ne sait pas bien mesurer les conséquences. Car au-delà des soubresauts de la conjoncture, il y a peut-être des changements plus profonds qui vont peser durablement ou pas sur le marché de l'emploi.
Par exemple ?
L'une des grandes inconnues, c'est la productivité. Ce qui fait que les économistes prévoient peu de création d'emplois l'an prochain, c'est qu'ils anticipent une forte augmentation de la productivité. Il y aurait donc besoin de moins de monde pour le même travail. Ce serait le cas notamment dans l'industrie, où on sait se réorganiser très vite pour gagner en productivité et rétablir un niveau de marge correct. Il est possible aussi qu'après une année marquée par deux confinements et une explosion du télétravail, eh bien, les entreprises aient accéléré leur transition numérique et ainsi augmenter la productivité de leurs salariés au détriment de l'emploi. L'autre raison qui explique ce grand écart entre les prévisions, eh bien, c'est le recours à l'activité partielle. Soit il reste important l'an prochain et beaucoup d'emplois seront sauvés, soit un grand nombre d'entreprises y renoncent et basculent dans des plans de réduction d'effectifs massifs. Espérons que les économistes qui anticipent ce scénario se trompent.
Merci Nicolas Barré. Il est 7h16 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Joe Biden continue à dévoiler, pardonnez-moi, un petit chat dans la gorge, tout va bien. Joe Biden continue à dévoiler son équipe et il désigne Pete Buttigieg comme ministre des Transports.
Alors personne ne le connaissait il y a un an et demi, en dehors de la petite ville de l'Indiana dont il est le maire. C'est devenu la coqueluche des médias, la vedette d'un parti obsédé par les questions de genre. Mayor Pete est beau, il est jeune, il est centriste et au centre de tous les regards car il est gay. Et le ministère des Transports, c'est pas rien quand le nouveau président prétend reconstruire les infrastructures et sauver l'aviation. Depuis hier soir, on entend donc bramer les progressistes. C'est la première fois que le gouvernement américain accueille un ministre ouvertement LGBT. C'est historique, tout comme l'a été le choix de Kamala Harris, la vice-présidente.
Biden tient sa promesse et nomme des représentants de la diversité.
Tellement de diversité qu'on se demande même où est passée parfois la parité. Son équipe de communication sera entièrement féminine. Il l'a annoncé fièrement et les médias ont applaudi. Une femme, pour la première fois, secrétaire au Trésor. Une autre, pour piloter le renseignement. Mais ça impressionne moins puisque Donald Trump avait nommé déjà une directrice à la tête de la CIA qu'il détestait. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il l'avait fait. Un réfugié cubain au ministère de l'Intérieur, chargé de l'immigration, une Taïwanaise au commerce, une Afro-américaine à l'ONU, etc., etc. Joe Biden s'est cassé le pied, mais il n'a pas perdu la main. Ses nominations symboliques ne lui coûtent rien. Et ce casting historique, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Pourquoi ?
Parce que derrière le show, les professionnels du cabinet sont de retour, l'élite washingtonienne, le président élu s'entoure de techno, les représentants de ce marécage que Donald Trump a vomi pendant 4 ans et qui le lui rendait bien. Près de la moitié des conseillers arrivent tout droit des sociétés de conseil ou des think tanks étroitement liés à l'industrie de la défense. Prenez le futur secrétaire d'État, le futur secrétaire à la défense, le général Austin. Il est noir, on l'applaudit bien fort, mais depuis sa retraite, il est surtout au conseil d'administration d'un des géants de la défense. Et on comprend mieux les prouesses de Wall Street depuis un mois. Et on applaudit encore.
Merci Vincent Hervouet. Et puis tiens, Vincent, on quitte les États-Unis, hein, on revient de ce côté de l'Atlantique, mais vous parliez de parité dans l'administration américaine. À Paris, la ville de Paris se voit infliger une amende de 90 000 euros pour avoir nommé trop de femmes à des postes de direction en 2018. Non-respect de la parité. Écoutez Anne Hidalgo, la maire de Paris, 90 000 euros d'amende. Elle se réjouit.
Ce qui est très beau avec la bureaucratie, c'est qu'elle ne connaît absolument pas le discernement et que donc elle ose tout. J'irai porter moi-même ce chèque de 90 000 euros à la ministre de la fonction publique.
Et tout de suite, de l'égalité homme-femme à la lutte contre les violences sexuelles. Elle a brisé le silence en dénonçant le harcèlement et les agressions dans le milieu du patinage artistique. Un an après, la solitude de Sarah Abitbol. L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h22 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça fait presque un an que la patineuse Sarah Abitbol a témoigné des abus sexuels qu'elle a subis de la part d'un entraîneur. Il y a eu une onde de choc, mais aujourd'hui, elle est seule. Et pour vous, c'est insupportable.
Bah oui, Sarah Abitbol est seule face à tous ces ronds de cuir de la Fédération des sports de glace qui n'ont pas supporté qu'elle brise le silence. Hein. Certains ne lui pardonnent pas d'avoir parlé en place publique des agressions sexuelles dont elle a été victime quand elle était patineuse. Et ils n'hésitent pas à passer quelques coup de fil mal intentionné pour qu'elle ne puisse participer à aucun gala en France. Sarah Abitbol vit aux États-Unis aujourd'hui, mais son rêve, c'est d'entraîner ici. Et on lui brise encore un rêve. La double peine parce que tout un tas de gens restent fidèles aux principes et aux amitiés de dirigeants aujourd'hui partis, mais dont le sombre héritage colle au patin. Ils voient Sarah Abitbol comme une menace. C'est le monde à l'envers. Hein. Oui, elle a fait tomber le château de cartes. Heureusement, il avait des fondations pourries, votre château. La menace, c'est pas elle, mais ceux qui ont commis des agressions, ceux qui n'ont rien voulu voir et ceux qui ostracisent la patineuse aujourd'hui. Les lanceurs d'alerte ne mettent pas leur sport en danger, ils lui redonnent des lettres de noblesse. Il va falloir se le mettre dans la tête hein, pour sauver ce qui reste des fameuses valeurs du sport.
Depuis le témoignage de Sarah Abitbol, Virginie, il y a quand même eu des avancées.
Ah bah évidemment, il y a eu une vraie prise de conscience de ce que pouvaient être les violences dans le sport. Et puis par effet domino, après le témoignage de Sarah Abitbol, il y a eu de nombreuses prises de parole dans tous les sports, hein, de l'équitation au judo en passant par l'athlétisme, partout. On s'est rendu compte de l'ampleur du problème et on a enfin écouté les victimes. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a fait sien ce dossier si épineux. Et c'est la première fois en France qu'il est devenu une vraie priorité nationale. Une cellule spéciale a été mise en place au ministère et ça fonctionne. Les victimes appellent, l'information remonte beaucoup plus facilement et c'est déjà un grand pas en avant. Et puis la ministre à l'époque n'a rien laissé passer à la Fédération française des sports de glace. C'est elle qui a obtenu de haute lutte la démission du président Didier Gayaguet. Deux nouvelles élections ont eu lieu, Nathalie Péchala a pris les rênes de la Fédé et il y a eu un formidable élan d'espoir. Oui, les choses ont bougé, c'est indéniable. Mais quand on voit ce que vit Sarah Abitbol aujourd'hui, on ne peut pas encore dire que rien ne sera plus jamais comme avant. Elle a eu le courage de parler. Notre devoir à tous aujourd'hui, c'est de la soutenir et de dénoncer encore et toujours ceux qui la mettent de côté.
Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1. Merci Virginie. Il est 7h24 et nous retrouvons Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pour dire c'est pareil quand deux choses sont semblables, voilà une expression que l'on utilise moins fréquemment qu'auparavant mais dont j'appréciais, moi, la bonhomie souriante. On disait c'est kiff-kiff bourricot.
Oui, c'est vrai que certaines personnes disent encore c'est kiff-kiff, mais les puristes qui disent c'est kiff-kiff bourricot, ils se font de plus en plus rares. D'où est-ce que ça vient?
Mais de l'arabe du Maghreb. Le kiff n'a rien à voir ici avec le hashish marocain, mais cela signifie pareil. Enfin, ça veut dire le mot identique. Si vous préférez, ce sont les soldats français issus des armées d'Afrique du Nord à la moitié du 19e siècle sous le Second Empire qui vont rapporter la formule ici en France. La présence du mot bourricot dans cette expression s'explique parce qu'en arabe, on dit aussi c'est pareil à l'âne. En France, on a également ces blancs bonnets et bonnets blancs. De là, avoir un rapprochement avec l'âne, dans « c'est pareil à l'âne », il n'y a qu'un pas que la prudence m'empêche de franchir. En allemand, on dit « c'est veste comme pantalon ». Pourtant, rien ne ressemble moins à une veste qu'un pantalon. En italien, on ne dit pas « c'est pareil », mais si ce n'est pas de la soupe, c'est du pain trempé. Voilà qui peut mettre en appétit. En roumain, on dit « c'est pierre contre tête ou tête contre pierre ». Là, effectivement, on voit bien que c'est assez équivalent. Et si vous me permettez, je termine avec cette citation sportive qui pourrait plaire à tous en général et à Virginie Fulpin en particulier. Le tennis et le ping-pong, c'est pareil, sauf que les joueurs sont sur la table. Et elle est de Coluche.
16h, on vous retrouve tout à l'heure, Stéphane, avec Mathieu Noël.
Oui, on réunit trois champions de l'improvisation, trois rois de l'impro. Beethoven, qui improvisait au piano, Martin Luther King, qui a improvisé son mythique « I have a dream », et Jonathan Cohen, le papa de la série qui laisse une large place à l'impro, Serge le mytho. Enfin, c'est ce qu'il dit, et cette fois, on le croit. Bref, on vous raconte l'histoire, sans se la raconter tout à l'heure, de 16h à 18h avec Mathieu Noël sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h. 7h26 sur Europe 1. Laurent Cabrol, La Météo et Sophie Echen, un nouveau journal. À tout de suite. 7h29 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et par rapport à ce que je vous disais à 7h, c'est kiff kiff bourrico. Il n'y a rien à dire. C'est pareil. Rien n'a changé. Du soleil sur les deux tiers de la France. Un peu de pluie sur la Méditerranée. Sur la basse Normandie, la vallée de la Loire et le Poitou-Charentes, quelques nuages. Et un tout petit peu de pluie aussi sur la Bretagne et le Cotentin. Donc vous voyez, rien ne bouge. Des températures entre 12 et 16 degrés. Ça, c'est Méziane. Méziane, ça veut dire c'est joli.
Ben, c'est joli. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal, il est 7h30.
La quasi-totalité des habitants auront à moins de 20 minutes de chez eux la possibilité d'avoir un centre de test. Et on s'est dit que ça, c'était la bonne échelle.
Coup d'envoi aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes de la plus grande campagne de tests Covid en France. Son président Laurent Wauquiez annonce qu'il y aura plus de 1300 centres de dépistage dans toute la région. Le casse-tête des ouvriers du BTP est obligé de déjeuner dans le froid faute de restaurants ouverts. Ils peuvent désormais se réfugier dans les salles municipales. Dans ce journal, le Sénat, sous pression en opposition avec la majorité, doit-il se prononcer pour ou contre le référendum voulu par Emmanuel Macron pour inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. Et puis n'en déplaise à ses détracteurs, Karim Benzema est le meilleur attaquant français de l'histoire. C'est Zinedine Zidane qui le dit.
Juste après ce journal, Benjamin Coria, économiste, auteur de La pandémie, l'anthropocène et le bien commun. Les risques de pandémie à répétition. Les réponses écologiques, notamment le tête-à-tête Europe Matin. Le climat, justement, le référendum ouvre une brèche dangereuse. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou, juste avant Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Adrien Quatennens, député La France Insoumise. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux jours après Le Havre et Charleville-Mézières, c'est aujourd'hui une région toute entière qui lance la plus grande campagne de dépistage Covid en France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des plus touchées par la deuxième vague. Pendant une semaine, les habitants pourront se faire tester sur la base du volontariat avec un objectif, éviter de contaminer ses proches pendant les fêtes. Jean-Luc Bougeon.
Au total, ce sont plus de 1300 centres temporaires qui vont être installés à partir d'aujourd'hui. On en trouvera dans 500 lycées publics et privés de la région, mais aussi dans 71 entreprises comme Seb ou Valeo, 37 grandes surfaces ou bien 16 gares. L'idée, c'est d'aller là où sont les habitants, explique Laurent Wauquiez, le président de la région.
La quasi-totalité des habitants auront à moins de 20 minutes de chez eux la possibilité d'avoir un centre de test. Et on s'est dit que ça, c'était la bonne échelle.
2 millions de tests antigéniques ont été commandés, plus des tests PCR. Médecins, pharmaciens, infirmiers de toute la région seront mobilisés, explique Lucien Barraza, le responsable des infirmiers.
Je pense qu'on sera 3000. On sera dans les lieux dédiés qui ont été déterminés par la région et on sera dans nos propres villages.
C'est ainsi que les tests seront possibles même dans les petites communes comme à Rémusat. 365 habitants dans la Drôme, explique son maire Olivier Salin.
Ce centre sera à côté de la place du marché. Nous avons fait appel donc aux bénévoles pour la partie administrative, les sapeurs-pompiers aussi. Et nous avons appris les professionnels de santé, puisque c'est eux les testeurs, deux pharmaciens, les médecins de la commune et nous avons deux infirmiers ainsi qu'un médecin qui est retraité.
Dans le Cantal, on a choisi une autre option. Pas de centre fixe, mais 40 cars qui sillonneront durant une semaine ce département rural. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà pour le dépistage. Et à propos du vaccin, le gouvernement présente aujourd'hui le détail de sa stratégie à l'Assemblée nationale avant un second débat demain au Sénat.
Cette bonne nouvelle pour les ouvriers du BTP. Ils peuvent désormais profiter de leur pause midi à l'abri dans les salles municipales.
Et jusque-là, ils devaient au mieux manger dans leur camion ou alors dans le froid sur leur chantier. Hier, le gouvernement a autorisé les communes à ouvrir leur salle polyvalente pour qu'ils puissent déjeuner au chaud. Mais certains élus n'ont pas attendu cette décision pour prendre des mesures. À Pleuc-l'Hermitage, dans les Côtes-d'Armor, par exemple, le maire avait déjà transformé sa salle communale en réfectoire. François Coulon.
Le froid, il connaît bien, monsieur le maire est agriculteur. Alors il y a deux semaines, l'élu n'a pas hésité à jouer les hors-la-loi pour mettre artisans et salariés du bâtiment à l'abri et au chaud à l'heure du déjeuner. Il leur a ouvert sa salle des fêtes en toute illégalité. Thibaut Guignard.
On ne supportait plus de voir des ouvriers du bâtiment manger à trois à l'avant du camion, sans masque. C'est pas acceptable de laisser des métiers qui travaillent dehors, par des températures qui actuellement frôlent les zéros, voire sont négatives, manger froid le midi. Une ou deux minutes au micro-ondes, ça permet de manger vraiment chaud. On a des ouvriers qui nous disaient « Mais moi, j'ai pas froid au corps, j'ai froid aux os, tellement le froid pénètre ».
À l'intérieur de la grande salle de 400 mètres carrés, bien chauffée, une vingtaine de tables espacées de 3 mètres. On trouve ici du gel et un registre pour les coordonnées, deux micro-ondes et un café fumant. Ça change la vie de Damien Rio, plâtrier.
On a froid, on se réchauffe pas. C'est quand même plus agréable ici au chaud. Après, on peut retourner au travail, le ventre bien plein. Du coup, ça redonne du baume au cœur, surtout l'hiver. C'est top. Il n'y a plus qu'à digérer maintenant.
Hier, Damien s'est offert un hachis parmentier bien chaud, rien à voir avec la salade de riz glaciale de la veille. Ploc l'Hermitage, François Coulon, Europe.
Ce coup de théâtre politique à Marseille, Michel Rubirola démissionne de son fauteuil de maire pour des raisons de santé. Elle désigne à sa place son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan.
7h34 sur Europe 1, le référendum sur le climat voulu par Emmanuel Macron. On va en parler dans 15 minutes avec Nicolas Bétou, l'édito politique, mais cette question, est-ce qu'il aura seulement lieu ?
Avant d'être soumis aux Français, le texte doit d'abord être voté par les députés et les sénateurs. Sauf que le Sénat de droite n'est pas vraiment emballé. Adrien Beck.
Il n'a pas eu un mot au-dessus de l'autre, juste un sourire entendu. Face à ses collègues de droite, Gérard Larcher n'a pas dévoilé son jeu. Pas prévenu de l'annonce d'Emmanuel Macron, pas surpris non plus. Le puissant président du Sénat n'en sera pas moins incontournable. Sans vote des sénateurs, pas de référendum. La solution de facilité pour la majorité serait alors simplement de le refuser. Un piège, si on fait ça, on passe pour des vieux cons, s'amuse un sénateur. Solution plus probable, temporisée, car tant que Sénat et Assemblée ne sont pas d'accord, le texte fait des allers-retours entre les deux chambres. Ça peut mettre 9 mois, dit-on au Sénat. Gérard Larcher a d'ailleurs prévenu hier soir qu'il ne comptait pas se faire imposer de rythme, tout en sachant très bien qu'Emmanuel Macron, à l'inverse, est pressé par le temps et espère aboutir avant l'automne. Pas de guerre frontale en perspective, mais plutôt une guerre des nerfs.
La justice et 30 ans de prison requis contre Cécile Bourgeon, la mère de la petite Fiona, disparue en 2013. Même peine demandée pour Berkane Maclouf, son beau-père. Le verdict est attendu aujourd'hui. Autre verdict, celui du procès des attentats de janvier 2015. Il sera prononcé cet après-midi. On reviendra sur ces audiences historiques dans le journal de 8h. Et le football, 15e journée de Ligue 1 ce soir, le Paris Saint-Germain reçoit Lorient à 21h. Paris qui espère une victoire pour tenter de retrouver sa place de leader. Et puis Marseille se déplace à Rennes à la même heure, 21h. L'OM qui espère bien accéder au podium.
Et puis Sophie, en Espagne, du côté de la Liga, écoutez, Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. Faut-il encore le présenter, Zizou ? Il s'exprimait hier soir après la victoire de son club contre l'Athletic Bilbao, 3-1. Et quand on lui pose cette question, Karim Benzema est-il le meilleur avant-centre français de l'histoire ? Écoutez la réponse sans équivoque de Zidane.
Para mí es el mejor, si está clarísimo.
Pour moi, c'est le meilleur, oui, c'est clair. Il le prouve. Ça fait longtemps qu'il joue au Real Madrid avec plus de 500 matchs et tous ses buts. En fait, son palmarès et tout ce qu'il a accompli jusqu'ici, tout ça parle pour lui-même. Il le prouve tout le temps, dit Zinedine Zidane. Karim Benzema, meilleur avant-centre français de l'histoire.
Tout le monde n'est pas de cet avis, ça fait bien.
Ça peut faire débat aujourd'hui sur les réseaux sociaux, peut-être. Merci beaucoup, Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier pour réclamer la réouverture des cinémas, des salles de spectacle, des théâtres, des musées, le monde de la culture, toujours confiné. Eh bien, Europe 1 ouvre sa matinale aux artistes. La culture, c'est essentiel. Jusqu'à Noël, tous les matins, les conseils, les prescriptions d'artistes de voix que vous connaissez. À 8h30, nous allons appeler le comédien Jean-Paul Rouve et Grand Corps Malade en direct. Mais tout de suite, et si le Covid n'était qu'un avertissement ? Le prélude à une ère où les épidémies se multiplieraient. Pourquoi la crise climatique, la crise de la biodiversité n'arrange rien ? Mon invité dans un instant, l'économiste Benjamin Coria, auteur de « La pandémie, l'anthropocène et le bien commun ». Le tête-à-tête Europe Matin, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
7h40 sur Europe 1. On a beaucoup parlé de monde d'après ces derniers temps. Et si ce monde d'après, c'était celui de pandémie à répétition ? Que faut-il adapter, anticiper pour ne pas subir un choc comme celui du Covid en 2020 ? Notre modèle de production, notre comportement vis-à-vis de la biodiversité en question, avec mon invité, l'économiste Benjamin Coria, auteur de « La pandémie, l'anthropocène et le bien commun » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Benjamin Coria.
Bonjour.
Alors d'abord, simplement, un peu de pédagogie peut-être, définissons ces termes. Alors pandémie, bien commun, on comprend. L'anthropocène, c'est une notion qui est plus débattue. C'est l'idée que nous sommes entrés dans une ère où l'impact de l'humain sur la planète est visible, quantifiable, mesurable scientifiquement.
Non seulement mesurable scientifiquement, vous avez tout à fait raison, mais surtout provoquant des déséquilibres de l'écosystème naturel Terre. Et la forme la plus visible, mesurée, etc., c'est les gaz à effet de serre et le changement climatique. Donc l'Anthropocène, c'est une ère de dérèglement, si on peut dire, liée à l'intensité de l'activité industrielle humaine. Voilà.
J'en viens à notre sujet. Ce risque pandémique, le risque sanitaire à échelle mondiale, Benjamin Coria, vous dites, il va falloir s'y habituer.
Oui, il va falloir s'y habituer, et évidemment, je n'ai pas sorti ça de ma petite tête, hein, si je peux dire. Un grand nombre de virologues, d'infectiologues, etc., à l'occasion de la pandémie Covid-19, ou de la Covid-19, ont fait observer que c'était une pandémie particulière, parce que c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire qui se transmet des animaux aux hommes, et que ces zoonoses sont en multiplication accélérée depuis 30 ans. Alors, il y a eu...
C'est pas la zoonose qui est nouveau, c'est l'accélération, l'échelle mondiale ?
Voilà, exactement. Ce qui est nouveau, c'est pas la zoonose, parce qu'il y en a toujours eu, si on peut dire. Ce qui est nouveau, c'est que depuis 30 ou 40 ans, elle se multiplie.
Alors, simplement, il y a l'actualité qui vous donne aussi raison, Benjamin Coria, ce matin. Je le mentionne, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, associée au chercheur Yazdan Yazdanpanna, membre du Conseil scientifique, annonce ce matin la création d'une agence pour le suivi des maladies émergentes et infectieuses. Là, ce matin, dans le Figaro. Bah, oui. Ça veut dire que, concrètement, là, ce qu'on connaît, qui est exceptionnel et qui nous bouscule tant, le Covid, c'est un entraînement ?
Eh bien, c'est pas un entraînement. Enfin, on peut dire que c'est un entraînement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une occurrence qui va se reproduire dans l'avenir. Alors, on peut pas dire quand, comment, etc. Mais ce qui est certain, c'est que cette transmission de maladies des animaux aux hommes va se multiplier, et pour plusieurs raisons. La première, c'est... pour parler vite, ce qu'on appelle les déforestations, plus généralement toutes les formes de destruction de la biodiversité, qui font que on se met en présence de faune sauvage qui porte des virus, qui sont contrôlés dans des espaces pluriels, divers, etc., parce qu'ils sont bloqués par la diversité. Quand on casse la diversité, quand on introduit de la monoculture, quand on va profond dans les forêts, on libère...
C'est une digue qu'on rompt, en fait. Hein. C'est une digue qu'on rompt.
On rompt des digues, exactement. Okay.
C'est un peu la même idée que quand on parle de fonte des glaces et de libération de bactéries anciennes.
Exactement, c'est la même logique.
L'autre argument que vous avancez, c'est celui de notre mode de production, celui de l'élevage intensif.
Exactement. Mais c'est notre mode de production doublement. D'une part, c'est ce que j'appelle avec d'autres l'extractivisme, hein, c'est-à-dire le fait d'aller à chaque fois plus profond dans les forêts, d'aller creuser sous les pôles, etc. Et puis, l'élevage industriel intensif hors sol, hein, en particulier pour les volailles, mais pas seulement, parce que maintenant, ça se multiplie pour toutes sortes d'animaux, est un nid à virus, parce que, pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que c'est des variétés uniques qui sont nourries de manière très largement chimique, et l'unicité favorise la diffusion du virus. Lorsqu'on a des espèces assez différentes, vous voyez, qui convivent sur un espace, le virus, il est bloqué. Parce qu'il passe dans certaines espèces, pas dans d'autres. Quand on est dans l'uniformité...
Et on le voit, on quitte en l'occurrence le Covid, on le voit dès qu'il y a une grippe aviaire qui ah ben, peut être véhiculée par des oiseaux migrateurs, on est inquiet pour les élevages intensifs chez nous.
Toutes les semaines, on détruit des oies, des poulets, etc.
Alors c'est pas tant un épidémiologiste ni un climatologue pour parler de ces questions que j'ai en face de moi. C'est un économiste. Et l'économiste que vous êtes nous dit qu'il faut quoi ? Il faut s'adapter déjà, anticiper de nouvelles crises comme celle du Covid ?
Oui, absolument.
Mais
absolument.
Comment ?
Alors, le mode principal, c'est qu'il faut, j'ai envie de dire, radoucir nos modes d'exploitation. Il faut arrêter avec l'extractivisme forcené. Il faut protéger la biodiversité. Si vous voulez, mon livre était à peine sorti. Hein, il est sorti le 4 novembre. Et le 18 novembre, la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité...
L'IPBES.
Et systèmes,
voilà, oui, c'est l'équivalent, je le dis en un mot, c'est le GIEC pour le climat, l'IPBES pour la biodiversité.
Voilà, exactement. C'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a dit nous sommes rentrés dans une ère de pandémie à répétition. Pour exactement la
même
raison.
Mais donc la solution, Benjamin Croyat, c'est quoi ? C'est d'arrêter les échanges internationaux ?
Non,
c'est d'arrêter les voyages ?
Pas, certainement pas. C'est pas d'arrêter les échanges internationaux, mais c'est de les réglementer de manière à ce qu'il y ait des normes sanitaires et des normes environnementales strictes, de faire en sorte qu'elles soient respectées, de mettre un frein sur l'extractivisme, de protéger la biodiversité, de revenir à des agricultures basées sur la diversité, respectueuses des cycles naturels. Il faut arrêter autant que possible avec l'élevage hors sol. Bon, il y a toute une série de choses qu'il faut faire. Ça ne va pas se faire en un jour, mais si on prend la direction, il y a plein de choses qui peuvent être faites.
Alors, on parle de risques, de catastrophes, de pandémies. Alors, je voudrais juste que nos auditeurs qui sont à l'écoute ce matin et qui se disent « Mais qu'est-ce qui nous fait, Béliard, ce matin? On est confinés jusqu'à 2150 ?» Non. Vous dites « Je ne suis pas pessimiste, on peut inverser la tendance. »
Oui, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas effondriste, hein, parce que voilà, parmi les gens qui s'intéressent à l'environnement et à l'anthropocène, il y en a qui disent « Ça y est, c'est fini, c'est trop tard. » Moi, je ne le crois pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que simplement le Covid et la diminution des activités industrielles a fait que les gaz à effet de serre ont diminué de 19%.
Oui, mais à quel prix ? À quel prix ? Pardonnez-moi, sur l'économie, sur l'emploi, sur la vie des entreprises.
Parce que ça nous a été imposé brutal. Mais si on choisit d'y aller doucement, progressivement, d'utiliser davantage d'énergie verte, d'utiliser davantage de polyculture, d'arrêter de creuser sous l'épaule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller creuser sous l'épaule ? C'est une folie, vous voyez.
Benjamin Coria, un dernier mot par rapport à cette pandémie que nous traversons et cette remise en question aussi, le monde d'avant, le monde d'après. Qu'est-ce que ça a de si spécial ? Je sais que j'ai un peu posé la question déjà, mais quand on reprend l'histoire, la grippe espagnole, c'est il y a un siècle, c'est 50 millions de morts. La grippe asiatique des années 50. Chez les Grecs, on retrouve des récits de la peste d'Athènes il y a près de 2500 ans. Finalement, l'humanité, elle connaît ce genre d'épreuves.
Mais oui, elle connaît, mais une fois tous les siècles, une fois tous les deux siècles, etc. Ce qui a changé, c'est d'une part l'occurrence pour que ça se passe, hein, du fait de cet extractivisme, la destruction, et puis le fait que la mondialisation, c'est-à-dire que on a établi des routes à travers l'ensemble de la planète qui font que les virus circulent beaucoup plus vite et vont partout. Juste un exemple, le SARS-CoV-2 qui est né à Wuhan, il s'est retrouvé, semble-t-il, d'abord dans la région du nord de l'Italie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des communications industrielle entre le nord de l'Italie et Wuhan, qui est aussi une plateforme industrielle. Et de là, ça a essaimé partout. Donc, ce qui a considérablement changé, c'est deux choses. Premièrement, l'extractivisme, etc., il n'a jamais été à ce niveau-là. Et puis deuxièmement, les routes commerciales et industrielles qui véhiculent les virus.
Réflexion pour ce fameux monde d'après. Et si nous étions en pleine répétition générale, et si nous connaissions des pandémies à répétition, merci Benjamin Coria, économiste, auteur de La pandémie, l'anthropocène et le bien commun, aux éditions Les liens qui libèrent. Lisez-le pour réfléchir à ce qu'est ce monde d'après, justement, dans lequel, eh bien, le mieux ce serait d'être adapté. 7h49.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1. L'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Vous revenez sur le référendum constitutionnel annoncé lundi soir par Emmanuel Macron. Un projet, dites-vous, potentiellement dangereux.
Oui, alors notez bien, j'aurais pu dire que c'était un projet parfaitement inutile puisque le sujet de la protection de l'environnement existe déjà dans la Constitution. Il y figure depuis plus de 15 ans. Dès lors, le répéter n'aurait qu'un objectif, faire un coup politique, faire avaler aux 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat le peu de résultats qu'ils avaient obtenus par ailleurs. Un peu comme si Emmanuel Macron avait lancé une sorte de flash éblouissant pour faire oublier tout ce qui est resté dans l'ombre, de côté, toutes ces mesures anti-voiture, anti-pub, anti-avion, anti-tout et surtout pro-interdiction, la marotte de cette Convention citoyenne. En tout cas, pour Emmanuel Macron, effet immédiat réussi.
Mais j'essaie de vous suivre, Nicolas. Est-ce que ça peut être inutile et dangereux à la fois.
Eh bien, pour vous répondre, d'abord un petit rappel sur ce qu'est le principe de précaution qui figure lui aussi dans la Constitution, dans la même charte de l'environnement. Au nom de ce principe, on doit s'interdire de mettre en risque la santé ou l'environnement, même si, et c'est ça qui est important, même si l'état de la science et des connaissances aujourd'hui ne permet pas d'identifier ce risque futur. C'est une règle terrible pour la science et pour l'entreprise parce qu'elle interdit d'avancer là où il y a un doute. Elle interdit ce qui est un des moteurs du progrès, de l'innovation, de la recherche, de l'entrepreneuriat, la prise de risque.
Et quel rapport avec le référendum ?
Alors, si le référendum porte sur un texte qui ne fait que répéter ce qu'il y a déjà dans la Constitution, le danger sera écarté, on aura juste eu un coup d'esbrouf. Mais si le texte de cette réforme constitutionnelle crée une sorte d'obligation de garantir que l'environnement ne sera jamais menacé par telle ou telle loi, alors ça peut devenir une catastrophe. Une sorte de principe de précaution puissance 10. Imaginons qu'un jour, un gouvernement décide de renforcer à nouveau les obligations des constructeurs automobiles en matière de lutte contre la pollution. Comment être sûr que le Conseil constitutionnel d'alors n'annulera pas cette loi au motif qu'elle serait insuffisante et ne garantirait pas la suppression totale de la pollution ? C'est le rêve des écolos, mais c'est mettre à l'arrêt l'économie et on sait ce que ça coûte en ce moment, une économie à l'arrêt. J'ajoute qu'il y a déjà, dans les cartons du gouvernement, depuis fin novembre, un projet de création d'un délit nouveau, celui d'écocide.
Et qui pourrait quoi, se cumuler avec les interdictions contenues dans la Constitution une fois réformée ?
Exactement. L'écocide sera là pour sanctionner des individus qui nuiraient à la planète. La Constitution serait là pour sanctionner des lois, ceinture et bretelles. Ainsi harnachée, la France, seul pays face à tous ses voisins et néanmoins concurrent, pourra facilement devenir l'idiot utile de l'écologie.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h. Et tous les jours, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Et c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui est venu dire un mot à Adrien Quatennens.
Oui. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Bétou. Je demande à ce que simplement Madame Mabrouk soit pas trop dure avec le gamin. Voilà. Parce que forcément, les discussions, on s'en doute. Elles vont forcément tourner autour de moi. Parce qu'entre vous et moi, la vie d'Adrien Quatennens, tout le monde s'en fout. Hein? Oui, c'est la réalité, M. Bétou. Vous verrez, je connais le métier. Elle va lui poser deux questions sur lui pour être poli, Madame Mabrouk. Et après, ça va être Mélenchon. Je la connais, la musique.
Bon, en tout cas,
vous feriez pareil, Béliard.
En tout cas, votre parallèle entre les vaccins américains et les surgelés a un peu surpris.
Oui. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je ne dirai jamais de bien d'un vaccin américain. Jamais. Je suis futur président de la France. Oui, ça vous fait rire. Je suis futur président de la République. La République, c'est moi. Je ne suis pas chef de rayon chez Picard, OK? Et dites à bien Adrien de garder son masque, de laver ses mains. J'ai pas envie de le trouver en carotène. Je préfère le faire moi-même.
Non, Nicolas, ça va,
on a le droit d'avoir de l'humour.
Vous avez tous les droits. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presse, bien sûr. Et Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, au micro de Sonia Mabrouk, c'est à 8h15 sur Europe. 7h59 sur Europe 1, nous sommes avec Laurent Cabrol pour la météo.
Et quelques températures, 10 à 11 degrés à Lille, Rennes, Strasbourg, Pouilly-en-Auxois, Mont-Cenis, Le Creusot, autant de villes où les températures seront les plus fraîches de France, si je puis dire. 12 à Nantes, à Nancy et Paris, 13 à Poitiers-Aurillac, 14 à Toulouse et à Limoges, 15 à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, à Lyon et à Mézieux, célèbre pour son ciel bleu, le ciel bleu de Mézieux, 16 à Biarritz et 17 degrés à Marseille. Et puis alors pour ceux d'entre vous qui sont situé actuellement en Bretagne, Cotentin et Loire-Atlantique. Attendez-vous à un petit peu de pluie. Dès la basse Normandie, la vallée de la Loire et au Poitou-Charentes, un temps nuageux. Sur près de la Méditerranée, quelques gouttes de pluie. Et ailleurs, du grand beau temps sur Paris, sur... Beau temps. Allez, sur Paris, sur la Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Berry, Massif central, Sud-Ouest et Rhône-Alpes. Bref, c'est deux tiers de la France.
Merci. Pardon, je vous ai coupé, Laurent ?
Non, j'ai soufflé.
Tout va bien. Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Il
faut qu'on incite nos salariés à se vacciner parce que c'est d'abord une protection pour eux et puis une protection pour pouvoir travailler.
Les chefs d'entreprise rêvent du vaccin autant que les épidémiologistes. Le dossier d'Europe 1 ce matin, pourront-elles les entreprises obliger les salariés à se faire vacciner et qui administrera la piqûre? Les grands groupes français mobilisent médecins et juristes. En Allemagne, deux cartes se superposent, celle du vote pour l'extrême droite et celle des foyers où le virus est hors de contrôle. Reportage. Dans ce journal, nous sommes à 8 heures d'un verdict historique, celui du procès des attentats de janvier 2015. Et puis la droite française qui n'a pas fini de se déchirer sur la désignation de son futur champion pour la présidentielle.
La politique de test, la campagne de vaccination, la gestion de cette crise par le gouvernement, crise sanitaire et économique. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après les allocutions et les conférences de presse télévisées, le gouvernement se tourne vers les parlementaires. 16h30 cet après-midi à l'Assemblée nationale, demain au Sénat, la présentation de la stratégie vaccinale de la France. Tandis qu'au niveau européen, l'avis de l'agence du médicament sur le vaccin Pfizer-BioNTech est attendu dès lundi, ce qui permettra de lancer la vaccination dans la foulée.
Il y a l'enjeu de santé publique et il y a l'enjeu pour l'activité du pays. Les entreprises regardent ce calendrier de très près. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1, on est bien d'accord. Les entreprises ne peuvent pas forcer leurs salariés à se faire vacciner.
Non, effectivement. Tant qu'il n'y a pas d'obligation de l'État, seuls les volontaires seront vaccinés. Mais pour le moment, on le sait, il y a une énorme réticence. Pourtant, les entreprises sont nombreuses à vouloir vacciner leurs salariés. Elles vont donc devoir convaincre, comme l'explique Franck Allard. Il est président du MEDEF en Gironde.
C'est d'abord leur intérêt et le nôtre après, parce que moins on a d'arrêt maladie, mieux on se porte. Alors effectivement, on ne peut pas l'imposer. À titre d'exemple, chaque année, nous installons un dispositif pour permettre aux salariés d'être vaccinés contre la grippe. Eh bien, aujourd'hui, les résultats sont de plus en plus décevants. On a dû commencer avec 20 ou 25% du personnel il y a une vingtaine d'années qui se faisait vacciner. Et aujourd'hui, on est réduit à 10%. Et je crois qu'il faut qu'on incite nos salariés à se vacciner parce que c'est d'abord une protection pour eux et puis une protection pour pouvoir travailler.
Alors Carole, est-ce que les sociétés ont déjà commencé à s'organiser ?
Et oui, en ce moment même, toutes les grandes entreprises mettent en place des cellules spéciales vaccination pour réfléchir à comment procéder. C'est déjà le cas chez EDF et Total, très prochainement chez Renault. Alors ces cellules regroupent des médecins, des DRH et puis des juristes qui épluchent les textes pour voir ce qui est autorisé ou non en France, mais aussi à l'étranger. Parce que tous ces grands groupes, ce sont des multinationales et dans certains pays, les campagnes de vaccination sont plus avancées que chez nous. C'est le cas en Chine ou au Maroc par exemple. L'un des médecins m'expliquait, on a pas mal d'expatriés qui nous appellent en ce moment parce qu'ils n'ont pas du tout envie de recevoir un vaccin russe ou chinois.
Les commandes de vaccins pour le moment, elles sont réservées au gouvernement. Si les entreprises pouvaient commander et surtout vacciner elles-mêmes, ça se ferait via la médecine du travail.
C'est une piste envisagée, effectivement, oui. Vous avez aussi les sociétés privées qui se déplacent déjà dans les entreprises pour vacciner contre la grippe ou pour faire des tests antigéniques. C'est le cas de Libéraux, un réseau de 700 infirmières libérales. Sa présidente, Florence Herry, est déjà très sollicitée par les entreprises qui s'interrogent sur le stockage de ces vaccins.
Je suis une entreprise, je n'ai pas de frigo. Ou je dois acheter un frigo, quel type de frigo, à quel endroit je le mets, qui est garant de la vérification du degré du frigo. On est en train de réfléchir notamment avec une entreprise qui crée des mallettes réfrigérantes pour savoir dans quelle mesure ce ne serait pas plutôt les infirmiers qui puissent se déplacer au sein d'entreprises et qui puissent transporter les vaccins anti-Covid, ce qui permettrait à des entreprises de plus petite taille de proposer la vaccination anti-Covid à leurs employés.
Voilà, mais ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y aura une traçabilité très exigeante pour savoir exactement comment chaque vaccin a circulé et à qui il a été administré.
Merci Carole Ferry pour ce dossier ce matin, la future vaccination dans les entreprises, dossier à retrouver sur europe1.fr.
Et à propos d'économie, cette prévision 2021 sera le temps des remèdes. C'est l'INSEE qui le dit et qui tape sur une croissance de 3% du PIB au premier trimestre, grâce notamment au plan de relance et à l'effet encourageant de l'arrivée du vaccin.
On note la prudence sur le plan sanitaire du président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy. Il s'exprime dans le journal Le Parisien ce matin.
Sur l'arrivée des vaccins qui n'aura pas d'impact pour le premier trimestre 2021 d'un point de vue sanitaire, très peu sur le deuxième, dit-il. Tenons bon. Par ailleurs, son conseil scientifique et hier sur Europe 1, le Premier ministre Jean Castex ont suggéré un auto-confinement de 7 jours avant Noël et le fait pour les enfants de ne pas forcément aller en classe demain et vendredi. Mais concernant la rentrée en janvier, Jean-François Delfraissy précise, a priori le retour en classe doit se faire à la date prévue, c'est-à-dire le 4 janvier.
Les écoles qui depuis ce matin sont fermées de nouveau en Allemagne. Idem pour les magasins jugés non essentiels et ce pour au moins 3 semaines.
Oui, l'Allemagne qui est sous pression, qui enregistre un nombre record de morts et qu'il y a ce virus qui circule plus vite en ce moment que chez nous, il y a ce parallèle frappant. Plusieurs localités où le virus est hors de contrôle sont toutes des fiefs de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a un lien entre le vote et l'application des gestes barrières? Voici le reportage d'Hélène Cole.
Nous nous faisons insulter. Cette infirmière de Bautzen en Saxe est démoralisée. Son unité surchargée est en train de perdre le combat face au virus. Mais Katharina doit aussi se battre avec les visiteurs de l'hôpital, les familles.
Tous les jours, c'est la même discussion pour que les gens mettent le masque. Ça me rend si triste.
La petite ville détient un double record. Le taux d'incidence le plus élevé d'Allemagne à 641 hier. Et c'est aussi la circonscription où le parti d'extrême droite AfD a obtenu le plus de voix aux dernières élections. 37% pour le député Carsten Hils.
Le masque sert avant tout à impressionner les gens, en leur rappelant tous les jours qu'il y a un terrible virus qui circule. Mais ce terrible virus, à mon avis, il n'existe pas.
Son parti manifeste chaque semaine aux côtés des complotistes anti-masques, des rassemblements sans gestes barrières qui accélèrent l'épidémie, comme le 21 novembre dernier à Leipzig, pointe le docteur Josten, qui dirige le plus grand CHU de la région.
L'un des organisateurs a été intubé 8 jours plus tard.
À l'ouest, on observe le même phénomène. Les villes les plus touchées par le virus sont systématiquement celles où l'AFD dépasse les 20%. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
8h06 sur Europe 1. Charlie Hebdo, Montrouge, l'hypercachère. Nous sommes presque 6 ans après les attentats de janvier 2015. Et c'est enfin aujourd'hui que le verdict du procès doit être donné. 14 accusés, dont 11 présents physiquement, les autres étant toujours recherchés. Et ce marathon judiciaire, 54 jours d'audience pour arriver au dénouement cet après-midi. Gladys Laffitte.
Un procès marqué dès le début par l'horreur. Celles des images du carnage de Charlie Hebdo projetées à l'audience ont tétanisé la salle. L'horreur des mots ensuite ceux des survivants, parfois en larmes, mais toujours dignes lorsqu'ils ont raconté leur difficile reconstruction. Et puis les accusés ont dû s'expliquer, ignorant tout du projet des terroristes, ont-ils dit. Parfois confus, parfois bruyants, comme Ali Rizapolat, le présumé bras droit d'Amédi Coulibaly. Ses coups de colère ont marqué l'audience, agacé la cour, qui l'a même expulsé. Il a aussi contracté le Covid, comme deux de ses co-accusés résultent procès suspendu pendant un mois, du jamais vu. À marche forcée et finalement sans visioconférence, l'audience a repris avec les plaidoiries des avocats des parties civiles. Celle de Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, dont les mots résonnent encore. Charlie est devenu une idée, Charlie vivra. Les peines demandées, lourdes, jusqu'à la perpétuité, provoquant la colère de la défense qui a exhorté la cour à ne pas condamner coûte que coûte les accusés vivants à la place des terroristes morts. 3 mois et demi de procès donc pour un verdict attendu dans quelques heures.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Un bureau politique explosif ce matin chez les Républicains. Il est question de la présidentielle. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1. La suite du journal. François Geffrier.
Au parti Les Républicains, le mot primaire est synonyme de surprise, de François Fillon et de défaite en 2017. Ce matin, au siège rue de Vaugirard à Paris, il y a ce bureau politique forcément tendu. Christian Jacob, François Baroin, Nadine Morano, entre autres, autour de la table, qui doivent évoquer la prochaine présidentielle.
Bonjour Aurélie Herbemont.
Bonjour.
On sait que Bruno Retailleau veut absolument aborder la question de la primaire pour 2022, mais la direction n'est pas de cet avis.
Effectivement, on est en alerte orange, ça va chauffer, parie un sénateur. Bruno Retailleau va mettre la pression sur la direction en défendant sa proposition de primaire à un seul tour avec des candidats classés par ordre de préférence face à des dirigeants pas convaincus. La présidentielle, ça n'est pas l'Eurovision, torpille un cadre. Un autre parle de sa proposition comme d'un torchon. Bruno Retailleau anticipe déjà une réunion verrouillée. Christian Jacob et ses lieutenants ont multiplié les coups de fil en amont avec une idée en tête, organiser un vote pour acter que la droite se penchera sur 2022 uniquement après les régionales et ainsi montrer un Bruno Retailleau isolé. Problème, Gérard Larcher ne veut pas de vote aujourd'hui et il pousse lui aussi à trouver rapidement un mécanisme censé remplacer la primaire version 2016. Alors cornériser Bruno Retailleau est une chose. Ouvrir un front avec le président du Sénat peut s'avérer plus périlleux. Il ne faut humilier personne, martèlent de nombreux élus. La direction, elle, semble décidée à aller au vote, quitte à ce que ça soit un peu brutal.
Aurélie Herbemont, du service politique d'Europe 1.
Et puis c'est un mythe pour beaucoup d'enfants des années 70. Pif Gadget, de retour aujourd'hui. Et on reparle d'ailleurs de la droite, puisque c'est un ancien porte-parole de l'UMP, Frédéric Lefebvre, qui joue le rôle du patron de presse avec ce magazine, pourtant d'inspiration communiste. Mathieu Charrier.
C'est l'Humanité qui a revendu la licence PIF à Frédéric Lefebvre, car c'est dans les pages du journal communiste qu'est né ce petit chien en 1950, avant d'avoir sa propre revue hebdomadaire dès 69. Chaque numéro étant accompagné d'un gadget qui fera son succès. Microscope à assembler, Pifi, ces petits crustacés du temps des dinosaures à faire éclore dans un verre d'eau, sachet de soda ou ball trap. PIF se vendra jusqu'à 1 million d'exemplaires avant de disparaître en 93. Cette nouvelle mouture est la quatrième tentative de renaissance qui s'appuie sur les histoires qui ont fait le succès du magazine, à commencer par une nouvelle aventure de PIF, de Placide et Museau, tout comme Rahan, présent lui aussi dans ce trimestriel. Lors d'une précédente relance en 2004, le rédacteur en chef historique de PIF Gadget, Richard Medioni, aujourd'hui disparu, rappelait la recette du magazine.
D'abord, l'innovation. On veut aussi que ça soit un journal qui défende l'amitié entre les hommes, la solidarité, l'antiracisme. Quant au gadget, on veut que l'enfant puisse manipuler, comprendre un certain nombre de principes scientifiques, par exemple.
Et justement, les gadgets qui accompagnent ce nouveau numéro, un jeu de loi en carton et le célèbre Sapif, une branche de sapin à planter dans son jardin, qui accompagnait déjà un numéro en 1975.
Mathieu Charrier, vous aurez votre petit gadget, Mathieu Béliard, oui, si vous achetez PIF aujourd'hui.
Merci beaucoup, François Geffry. Oui, un journal d'inspiration communiste relancé par un ancien de l'UMP. Est-ce que votre invité va acheter PIF gadget du coup, Sonia Mabrouk?
On va lui poser la question.
Est-ce qu'il l'a connu? Il est assez jeune, Adrien Quatennens. Est-ce qu'il a connu le PIF gadget de la grande époque, d'ailleurs?
Oui, possible, c'est la même génération quand même que la nôtre. Alors, on va également parler de la surprise du référendum d'Emmanuel Macron, la stratégie vaccinale présentée à l'Assemblée nationale et du coup de tonnerre à Marseille. Vous l'avez compris, c'est Adrien Quatennens, le député et coordinateur de la France Insoumise, qui est notre invité.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le député Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise.
Bienvenue et bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Quelle que soit la question posée, est-ce que vous savez déjà ce que vous répondrez s'il y a bien un référendum sur l'introduction de la lutte pour le climat dans la Constitution ?
Nous répondrons non, parce que ça n'est pas un référendum que propose Emmanuel Macron, c'est une amnistie. En réalité, il y a déjà, vous le savez, Sonia Mabrouk, une charte de l'environnement qui est intégrée à la Constitution. Emmanuel Macron ne la respecte pas, comme il ne respecte pas d'ailleurs les engagements pris par la France lors des accords de Paris, en matière par exemple d'émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron mène une politique anti-écologiste depuis le début de ce quinquennat. En avril dernier, avril 2020, un décret a été pris pour diminuer l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est le président qui a réintroduit les néonicotinoïdes. C'est le président qui a renoncé à l'interdiction, à la transition pour qu'on se passe du glyphosate. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, nous sommes véritablement à la remorque. Vous voyez, les accords de Paris prévoyaient qu'on limite le réchauffement climatique. L'objectif, c'était 2 degrés, voire pourquoi pas 1 degré et demi.
C'est intéressant ce que vous
et
dites.
La trajectoire
donc
que nous avons, c'est 3 à 5 degrés, oui, avec beaucoup de donc catastrophes
c'était,
derrière.
C'était une erreur de fermer la centrale de Fessenheim.
Pardon ?
C'était une erreur de fermer la centrale de Fessenheim, si je vous écoute.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que la fermeture de Fessenheim va entraîner un surcroît d'émissions de gaz à effet de serre correspondant, Adrien Quatennens, à plusieurs millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, soit 10 à 20% des émissions annuelles totales d'une région comme l'Île-de-France.
Ce qu'il y a lieu de faire, Sonia Mabrouk, face au changement climatique...
Non, mais vous êtes d'accord sur ce sujet ?
Non mais justement, je vais vous le dire, il faut organiser la planification de la bifurcation écologique. Voilà ce que nous devons faire. Il faut mettre toute l'économie du pays au service d'un objectif, la neutralité carbone, et nous le pensons à la France Insoumise, se passer à terme du nucléaire. Personne ne dit, Sonia Mabrouk, qu'on va se passer du nucléaire en un claquement de doigts, en appuyant sur un interrupteur. Néanmoins, il faut organiser la planification de la sortie, de la transition. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire.
À quel horizon, M. Quatennens ? Parce que certains disent que 100% de renouvelables, c'est un mythe, c'est impossible.
Nous pouvons le faire d'ici à 2050 si on déploie massivement ce qu'il faut dans les énergies renouvelables. Nous pouvons le faire avec la planification. Et puis surtout pour ça, je vais vous dire aussi, il faut garder entre nos mains des outils industriels dont nous avons besoin. Vous savez peut-être que dans le projet de loi qui vise à traduire les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui sont, on va en reparler, pour la plupart ajournées ou reportées aux calendes grecques, Emmanuel Macron a l'intention d'utiliser ce projet de loi pour démanteler EDF avec le fameux projet Hercule. Alors d'un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est la fin du processus de démantèlement d'EDF. Après-guerre, nous avions un monopole d'État qui maîtrisait toute la chaîne de l'énergie, de la production jusqu'à la consommation. La Commission européenne est passée par là avec son idéologie de la concurrence libre et non faussée. Ils ont tous saucissonné pour créer des filiales et des marchés qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, il va s'agir en quelque sorte de démanteler définitivement cet opérateur
mais
historique.
Or, je vous Adrien dis, Quatennens,
nous avons
est-ce
besoin
vous...
de ces outils pour
Bien
faire
sûr.
La planification
mais est-ce que
écologique.
Mais est-ce que vous auriez accepté toutes les propositions des 150 citoyens de la Convention sans joker ?
C'est Mabrouk, 90% des propositions de la Convention citoyenne pour le climat sont dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. 90%.
Je peux vous donner un exemple de mesure, comme ça vous nous dites
sur quoi. Par exemple, quand on parle d'un grand plan ferroviaire, de relancer le fret, il parle aussi de taxation des dividendes pour l'écologie. Il y a un tas de choses intelligentes à faire. Je comprends qu'Emmanuel Macron, qui a tiré au sort des citoyens, qui les a fait travailler, et dont il ressort un programme qui, à 90%, est celui de Jean-Luc Mélenchon, je comprends qu'il n'ait pas très envie de l'appliquer.
Je vous donne un exemple concret. Par exemple, parce que vous, il y a eu une des propositions de ces 150 citoyens qui concerne l'instauration d'une écotaxe sur le transport aérien. Est-ce que vous êtes d'accord, banco?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il va falloir réduire, y compris le transport aérien. Ça ne veut pas dire tout arrêter d'un coup, mais tout le monde comprend que nous allons faire face à de grands périls face au changement climatique. Moi, je vous le dis, Sonia Mabrouk, la crise sanitaire que nous vivons et le niveau de mobilisation qu'elle exige, c'est une sorte de répétition générale, sans doute,
bien
des
sûr.
Crises climatiques
y...
qui
mais
nous
mais
attendent.
Vous dites oui à cette mesure. Pourtant, M. Quatennens, cette mesure entraînerait, selon les spécialistes du secteur aérien, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, entre 120 000 et 150 000 emplois perdus. Vous êtes toujours d'accord avec une telle mesure ?
Sonia Mabrouk, entendez ce que je vais vous dire. La planification écologique que nous appelons de nos voeux, c'est-à-dire l'idée de mettre la règle verte au-dessus de tout. On ne prend pas la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. C'est un défi humain et un défi technique
mais
passionnant.
Mais M. Quatennens...
Sonia Mabrouk, songez un instant, parce que vous me parlez d'emploi. Faire la planification écologique comme nous le souhaitons, comme nous le proposons avec Jean-Luc Mélenchon. Songez à la transition de notre modèle agricole, passer d'une agriculture productiviste
intensive... Mais songez
intensive.
À ces emplois perdus.
Justement,
si vous appliquez une éco-contribution.
Écoutez ça, si vous êtes soucieuse de la question de l'emploi. Transition agricole, passer d'une agriculture productiviste intensive en chimie à une agriculture paysanne intensive en main-d'œuvre. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Faire la transition énergétique. Il y a la question de l'eau, il y a un plan eau à avoir parce que le cycle de l'eau a été
vous
complètement perturbé.
Mais des
l'économie
milliers
de
d'emplois perdus.
Mais ce que je viens de vous citer, Sonia Mabrouk, ce sont des millions d'emplois, on les a chiffrés.
Et pourquoi ?
Transition agricole, transition énergétique, plan d'économie de la mer, transport, 1,5 million d'emplois à créer. C'est autre chose que le saupoudrage de milliards du plan de relance sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique. C'est-à-dire, il s'agit pour le gouvernement de relancer l'activité avec les mêmes paramètres qu'avant cette crise.
Bon,
comme
mais,
si une catastrophe comme celle que nous vivons...
Mais vous me dites qu'il y aura quand même des sacrifiés, notamment ces milliers d'emplois, si vous appliquez, si vous étiez aux responsabilités
d'une
éco-contribution.
Regardez, par exemple, quand on dit qu'on va faire la transition d'un certain nombre de secteurs, on va avoir besoin de ces savoir-faire. Si même je vous dis, Sonia Mabrouk, qu'à terme, l'idée, c'est de se passer du nucléaire. Mais ça ne se fera pas sans les salariés du nucléaire. Il y a des tas de choses intelligentes à faire. Et encore une fois, je le redis, c'est pas en un claquement de doigts. Il faut le décider, l'organiser. Et c'est autre chose que finalement une pastille verte comme celle que souhaite mettre Emmanuel Macron sur la Constitution.
Adrien Quatennens, ce qui me frappe, c'est qu'un mix énergétique sans nucléaire, beaucoup disent que ce serait une explosion d'émissions de CO2. Vous l'admettez ?
Écoutez, Sonia Mabrouk, il y a beaucoup de plans qui montrent que d'ici à 2050, en investissant massivement dans les énergies renouvelables, en faisant une vraie transition globale du modèle, on peut s'en passer. C'est un objectif de long terme, parce qu'il faut le décider politiquement et l'organiser. On peut le faire. Songez que tout cela, par ailleurs, ce sera de nouveaux emplois, ce sera des formations, des nouveaux métiers qui vont se créer. Il faut mettre toute l'économie du pays au service de cette ambition climatique. Sans quoi, effectivement, on le voit bien, il y a des catastrophes autres que cette crise sanitaire qui nous attendent. Moi, j'ai rencontré récemment à l'Assemblée nationale une délégation des citoyens de la Convention citoyenne. Vous savez, ils nourrissent beaucoup de rancœur envers le chef de l'État. Ils
et ont d'espoir l'impression peut-être avec ce référendum aussi, quand
mais
même.
Le référendum, admettez que ce référendum n'est que finalement un affichage politique. Si la Constitution, par ailleurs, doit être changée, il faut que ça soit dans le cadre d'une Assemblée constituante où le peuple redéfinit la règle du jeu.
Sur les vaccins.
Pas un tripatouillage de communication.
Monsieur Quatennens, sur les vaccins, vous dites que cela suscite beaucoup d'espoir. On va en parler, mais sur les traitements, on en parle très peu et pourtant, ce qui se passe dans le Nord, c'est très intéressant. L'Institut Pasteur de Lille, que vous connaissez évidemment bien, où en est la recherche sur une molécule anti-Covid.
Vous avez raison et vous visez juste, on en parle peu. La stratégie vaccinale, le vaccin ne peut pas être à lui tout seul la solution, on le voit bien pour plein de raisons. Et la question du traitement associé à cette stratégie est essentielle. Or, l'État en parle peu et effectivement, à Lille, d'où je viens, l'Institut Pasteur est en train de faire des études sur une molécule qui serait un traitement face au Covid-19. Et je m'étonne que l'État en parle si peu.
Vous savez pourquoi il en parle peu ?
Dites-moi.
Parce que ce n'est pas lui qui finance. C'est
en
un
effet.
Grand groupe privé, c'est le groupe LVMH avec Bernard Arnault qui finance pour 5 millions d'euros ses recherches prometteuses et ses essais cliniques.
Eh bien, je vais vous dire, moi, ça me conforte dans l'idée que l'une des propositions que nous avons formulées est la bonne. Nous avons besoin en France, pour produire en France, d'un pôle public du médicament. On y intégrerait la recherche fondamentale, la fabrication des molécules indispensables. Il y a une question de souveraineté sanitaire là-dedans. Il y a 20 ans, Sonia Mabrouk, 80% de nos médicaments, on les produisait. Aujourd'hui, c'est l'effet strictement inverse, 80% sont importés. Cette crise révèle la nécessité de rompre avec un modèle. Il faut produire en France.
Vous avez raison.
Et c'est pour ça que nous proposons un pôle public du médicament.
Un clin d'œil, c'est l'occasion de dire merci parfois aussi à des patrons, à des grands patrons qui investissent dans la recherche.
Je préférerais en tout cas que nous ayons la pleine maîtrise publique de cela et, et aussi la pleine transparence. Regardez, dans le cas du vaccin, par exemple, nous avons le plus grand mal, parce que le secret des affaires protège cela, nous avons le plus grand mal à savoir quel est le prix de production réel de ces vaccins. Il nous faut un médicament au service de l'intérêt général. Un médicament, c'est un bien commun de l'humanité. Il y a une pandémie mondiale, voyez, la question du vaccin, si le vaccin est efficace pour lutter contre cette pandémie, il devrait être un bien commun.
Et la stratégie vaccinale, c'est évidemment un sujet aussi éminemment politique. J'en viens à Jean-Luc Mélenchon qui est en campagne depuis un mois. Pourquoi ce serait lui le candidat unique de la gauche, Adrien Quatennens ?
Écoutez, ça fait deux campagnes présidentielles avec de plutôt bons résultats. Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il est le mieux placé. Ce que nous voulons faire, et c'est pourquoi nous avons lancé cette campagne tôt, finalement, un programme, vous savez, c'est pas un objet marketing qu'on lance trois mois avant une élection avec un joli feuillet en papier glacé. Il faut l'enraciner dans la durée. C'est une majorité d'adhésion que nous voulons créer. C'est pourquoi le site s'appelle d'ailleurs noussommespour.fr, parce qu'on en a assez d'être sans cesse cantonné, finalement, à un vote contestataire. Nous avons fait un gros travail programmatique. Nous voulons que les gens, que les Françaises, les Français, vote pour quelque chose. Si vous êtes pour le passage à la 6ème République, pour vaincre la pauvreté, pour produire en France, on vient d'en parler, pour engager la bifurcation écologique, eh bien vous pouvez avoir un vote d'adhésion, il y a des équipes constituées. Ouais. Et puis surtout, je termine par là, vous avez peut-être remarqué ça, mais on a aussi un beau temps d'avance en termes d'innovation. On a lancé un réseau social d'action qui permet l'organisation. On a fait un premier meeting de campagne numérique parce que Covid oblige, il faut bien organiser les conditions de la campagne.
Et à la fin, Monsieur Quatennens, vous espérez gagner. Et pour cela, vous ne pouvez pas y aller seul. Les Verts, c'est non. Les socialistes, c'est non. Il reste les communistes de Fabien Roussel, qui ont soutenu par deux fois Jean-Luc Mélenchon. Ça ne vous a pas permis de gagner.
En tout cas, vous avez remarqué que la dernière fois, il s'en est fallu de peu, à plus de 19%.
Oui, non, mais oui. Voilà,
il s'agit de faire toujours mieux. La dernière fois, c'était
600 000 voix près.
Voilà, mais 7 millions de voix sont regroupées autour de ce programme L'Avenir en commun. Et vous savez, la crise que nous vivons actuellement, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales, la situation de la pauvreté en France, par exemple, 10 millions de pauvres dans la 6ème puissance économique du monde, je pense que tout ce diagnostic montre que ces solutions aujourd'hui sont en tout cas plus faciles à défendre. Donc il s'agit de bâtir une majorité d'adhésion. Vous me parlez des partis. Moi, par exemple, je souhaiterais que le Parti communiste nous soutienne. Ça fait deux campagnes présidentielles qu'on a fait cause commune. Plus de 90% de nos votes sont communs à l'Assemblée. Mais moi, je crois qu'au-delà des partis politiques qui ont tous leur calendrier, vous l'avez cité, les Verts, leurs primaires, etc. Moi, je crois qu'il y a des personnalités qui, cette fois, c'est plus ouvert. Des personnalités pourraient rejoindre sorte de comité de campagne pour faire équipe.
À vous rejoindre les personnalités et les partis. À Marseille, la maire Michèle Rubirola jette l'éponge, elle passe le témoin à son premier adjoint et pour certains électeurs, c'est un jeu de bonneteau qui passe mal. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, c'est dommage. D'abord, il y a des raisons de santé qui sont évoquées, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Et surtout, j'espère que la majorité, les élus, vont savoir s'accorder sur le nom du futur maire. Et on leur souhaite bonne chance, mais c'est sûr que c'est dommage.
Dommage, c'est tout ? Parce que le premier adjoint.
Oui, bien sûr.
C'est quand même une méthode de désignation particulière.
Il y a des raisons de santé qui sont évoquées. Donc, on lui souhaite d'abord et avant tout un bon rétablissement. Et puis, cette majorité, elle a été élue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on a bon espoir que les élus s'accordent sur le nom d'un nouveau maire.
Qui n'est pas donc le premier adjoint.
Bah écoutez, c'est une proposition qui est faite. On va voir ce que le conseil municipal décide.
Merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité ce matin, d'être revenu à l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, le rappel de l'info avec Hélène Zélani.
Le gouvernement présente aujourd'hui sa stratégie vaccinale à l'Assemblée. L'objectif, dit-on à Matignon, c'est la transparence totale. Campagne de dépistage massif en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 1300 centres temporaires sont installés, notamment dans des lycées. L'Allemagne enregistre un nombre record de près de 1000 morts en 24 heures. À partir d'aujourd'hui, établissements scolaires et magasins non essentiels ferment pour au moins 3 semaines. C'est le jour du verdict au procès des attentats de janvier 2015. Des peines de 5 ans à la perpétuité ont été requises. Et puis un joli coup pour les douanes, plus de 27 000 objets archéologiques pillés viennent d'être récupérés, butin d'une valeur inestimable, amassé pendant des années par un homme originaire du Grand Est.
Merci Hélène Zélani. 8h31 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Oui, un petit rappel pour vous dire que le soleil sera là sur une grande partie de la France. Un temps maussade près de la Méditerranée avec pas mal de pluie sur les Cévennes. Des nuages de la basse Normandie au Poitou-Charentes et sur la Bretagne et Cotentin, un peu de pluie, surtout dans la journée, en milieu de journée. Les températures maximales entre 12 et 16 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
À 8h32 sur Europe 1, nous retrouvons Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed, qui répond à vos questions de santé. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour.
Pour Noël, vous avez une idée de cadeau un peu particulière. Vous proposez de faire réparer les écrans de téléphone portable qui sont cassés?
Oui, alors c'est peu connu, mais c'est extrêmement important pour votre santé et celle de vos enfants de faire réparer ces écrans de téléphone qui sont cassés, en particulier ceux des adolescents qui ont tendance à les négliger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écran de téléphone portable, lorsqu'il est cassé, il dégage un composé chimique extrêmement toxique qu'on appelle le cadmium. Ce cadmium, il fait partie de la famille des perturbateurs endocriniens. Vous savez, ces substances qui sont capables de perturber le système hormonal en se faisant passer pour une hormone ou en perturbant celles qui sont déjà présentes. Or, tout notre organisme est finement régulé par ces hormones, la thyroïde, les ovaires, le pancréas, et le moindre dérèglement peut avoir des conséquences dramatiques. On sait que ça baisse la fertilité en réduisant les spermatozoïdes, mais ça augmente aussi le cancer du testicule, les cancers du sein, et même d'autres maladies comme l'obésité ou le diabète.
Vous dites perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on trouve aussi dans certains plastiques, non Jimmy ?
Exactement, et sans le savoir, vous mangez l'équivalent d'une carte de crédit par semaine de plastique, car le plastique qui nous entoure est partout. Alors, quelques conseils simples, dans la cuisine, bannissez autant que possible le plastique, les biberons plutôt en verre, ou les ustensiles comme les spatules, mieux vaut les préférer en bois. Et puis là, c'est la période de Noël, je vous ai parlé des cadeaux, les jouets, préférez ceux en bois qu'en plastique, ce sera mieux pour la planète, mais aussi pour vos enfants.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. Chaque semaine, hein, c'est ça ? Vous disiez chaque semaine, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit. C'est pas rien hein, en termes de plastique. Merci Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins sur Europe 1, 8h33. La culture, c'est essentiel. Et dans un instant, un nouveau rendez-vous. Après 8h30, Europe 1, tous les matins, va ouvrir son antenne à des artistes et des personnalités de la culture jusqu'à Noël. Leurs espaces de création sont fermés. Eh bien, on ouvre le studio de la matinale. On va écouter leurs prescriptions, leurs conseils. La culture, produit essentiel. Alors, c'est presque l'ordonnance de Jean-Paul Rouve et de Grand Corps Malade que vous allez entendre dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Je vous l'ai dit, depuis 7h, Europe 1 s'associe et vient en aide au monde de la culture, de toutes les cultures. Alors pour commencer, je voudrais vous proposer un petit extrait d'une émission dont Europe 1 est partenaire, Rétroscopie, ce soir sur TMC. Nous sommes dans le futur et au micro d'Hélène Manarino, une personnalité revient sur sa carrière.
Rendez-vous en 2050 pour une émission spéciale Jean-Paul Rouve qui vient de fêter ses 83 ans et qui fera enfin sa rétroscopie.
Mais tout ça, c'était pour s'amuser, vous savez.
Action !
Avec les plus grands moments de sa carrière passée.
Bonjour Jean-Paul Rouve.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Exercice délirant. Hein. Vous avez 86 ans, vous avez une carrière...
83. Ne vieillissez pas quand même.
83 ans Jean-Paul Rouve, une carrière avec des hauts et des bas, pas mal de bas. Vous jouez avec les images télé, avec un futur que vous vous imaginez en fait.
Exactement. Ouais. Sur une idée, c'est une idée du producteur, de Jérôme Revon. Et on s'est beaucoup amusé à faire ça. On part du principe qu'on est donc en 2050. Donc évidemment, des archives de ma naissance à... Je dis bien ma naissance, c'est même des archives où je suis petit. De ma naissance à aujourd'hui, à 2020, bah ça existe. Et ensuite, on a inventé un futur un peu délirant pour s'amuser, retrouver le plaisir que moi j'ai retrouvé le plaisir que j'avais quand je faisais des sketchs avec les Robin des Bois, des choses comme ça.
Et dans ce futur délirant, la sortie d'un film.
Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.
Afrique, t'es où ?
Vous le saurez en allant voir Les Tuches contre les extraterrestres. Avec Jean-Paul Rouve dans le rôle de Jeff Tuche et Richard Berry dans le rôle de la frite.
Jean-Paul Rouve, Les Tuches, ouais, 7, je crois, hein, Les Tuches contre les extraterrestres.
Ça, exactement.
La culture, c'est essentiel, je le disais, Europe 1 donne la parole à tous les artistes. Le matin, Jean-Paul Rouve, on va accueillir une autre personnalité avec nous. Bonjour Grand Corps Malade.
Bonjour.
Alors, Grand Corps Malade ou Fabien, je vous ai jamais eu en interview, je sais pas si on vous appelle Grand Corps Malade ou par votre prénom.
Ah bah vous faites comme vous voulez.
Je fais comme je veux, je vais y aller. Vous jouez le jeu tous les deux du conseil. Les salles de cinéma et de spectacle sont fermées. Pas de théâtre, pas de concert. Jean-Paul Rouve, quel conseil est-ce que vous donnez ce matin, conseil culture, à Grand Corps Malade et aux auditeurs d'Europe 1 ?
J'imagine qu'il doit le connaître évidemment, mais il y a une réédition là de, enfin c'est pas une réédition, c'est l'album Alain Souchon, et il a ressorti un album là où il reprend plein de ses titres, des derniers mais aussi plus anciens en acoustique, et cet album est vraiment sublime. Voilà, donc j'écoute ça en boucle en ce moment.
les bimbos toc, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel.
La réédition d'Am 50s d'Alain Souchon, c'est le coup de cœur de Jean-Paul Roux ce matin. À vous de jouer sur Europe 1 ce matin, la prescription de Grand Corps Malade.
Alors moi déjà, j'invite tout le monde à aller acheter de la culture, parce que la culture souffre en ce moment. Donc n'hésitez pas à Noël à acheter avec vos moyens un livre, une BD, un disque, une place de concert. Voilà, la culture souffre et donc la culture s'offre. C'est pas moi qui ai lancé l'opération, mais c'est une belle initiative. Mais en attendant mon petit conseil culture à Jean-Paul Rouve, puisque les salles de cinéma sont fermées, c'est une série qui s'appelle « When They See Us » en anglais, et c'est « Dans leur regard » en français. C'est 4 fois 1 heure sur une énorme erreur judiciaire d'adolescents américains. Et ça a été un peu ma claque de l'année. C'est une super série assez violente psychologiquement parce que l'erreur est horrible. Mais c'est très fort, très bien filmé et très bien joué.
Et c'est sur Netflix.
Je sais que t'as vu des choses. Peut-être même fait des choses. Pour te défendre. Bref, quoi qu'il ait pu se passer quand t'étais là-bas, ce qui compte, c'est que ton cœur est resté intact.
Très, très grand succès aux États-Unis, dans leur regard, hein, pour le titre en français, When They See Us. Grand Corps Malade, un morceau coup de gueule la semaine dernière. J'en reviens à notre sujet, morceau pas essentiel. On est hors album, hors promo finalement, et vous ne vouliez pas rester silencieux dans la période. On écoute.
Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant.
Jean-Paul Rouve et Grand Corps Malade, ce débat sur essentiel, pas essentiel, évidemment qu'il a tendu les discussions ces derniers temps. Je retiendrai, je sais pas, Jean-Paul Rouve, vous devez adhérer à ce que disait Grand Corps Malade, la culture souffre, donc la culture s'offre.
Oui, voilà. Excuse-moi, parce que ça, j'ai pas tout entendu ce que dit Fabien. Ça captait pas pour moi. Mais oui, c'est une très belle phrase. Je l'ai pas entendu. Bravo. Oui, je suis d'accord avec lui exactement.
Eh bien, écoutez, Jean-Paul Rouve, merci beaucoup. Ce soir sur TMC, j'ajoute que Europe 1 est partenaire de cette émission en rétroscopie et qu'on va en parler avec Philippe Vandel dans Culture Média et Hélène Manarino qui vous interview quand vous aurez 83 ans.
Exactement.
Grand Corps Malade, Fabien. Une autre actualité, c'est l'album de duo, Mesdames. Alors, on n'y trouve pas le titre pas essentiel, puisque ça, c'est un coup de gueule, c'est une signature que vous avez envoyée la semaine dernière. Mais l'album de duo, Mesdames, 120 000 exemplaires vendus déjà. Mais je t'aime, single de platine, 50 millions de vues sur YouTube.
Mais je t'aime.
Avec Camille Lelouch, évidemment, ce succès, les Français l'ont beaucoup entendu. Grand Corps Malade, vous continuerez à vendre cet album, si j'ose dire, à le promouvoir quand on pourra rouvrir les salles de concert, des tournées prévues à partir de la fin de l'année 2011, je crois.
Hein. Ouais, il y a même des dates qui sont en train de se caler au printemps, mais bon, on est en train de recaler tout ça parce qu'évidemment, il y a eu des reports. Mais il y a déjà tous les zéniths qui sont ouverts, donc ça commence en novembre 2021. Donc il y a toute la billetterie qui est ouverte sur une tournée d'une trentaine de zéniths en France. Donc c'est pas tout de suite et on espère bien que du coup il y a plus de soucis pour ouvrir tous ces zéniths.
Et vous avez bien corrigé Grand Corps Malade 2021, pas 2011. Hein. Pour 2011 on était un petit peu en retard. Merci beaucoup Grand Corps Malade.
Merci à vous.
Jean-Paul
Roux.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci à tous les deux et d'ailleurs j'ajoute que l'opération La Culture s'offre, on en parlera aussi avec Philippe Vandel dans Culture Média. Europe 1 mobilisé finalement et aux côtés du monde de la culture c'est essentiel. Ce rendez-vous-là, là, ces artistes que nous allons retrouver sur Europe 1, ce sera tous les matins jusqu'à Noël, 8h42.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h45 sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite Mathieu Béliard pour le rappel de l'actu.
Eh oui, bonjour Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est que je prends conscience que je suis un rebelle, un hors-la-loi. Et oui, ce matin, j'ai brisé la règle du couvre-feu. Vous savez qu'on a le droit de sortir qu'à partir de 6h du matin, sauf que moi, pour être à l'antenne à 7h, et préparer la matinée, parce que ça se prépare. On croit que j'improvise, mais non, pas du tout. Je quitte la maison à 3h12. Vis ma vie de boulanger ou de matinalier, mais c'est pareil. Voilà. L'info du jour, c'est aussi la démission de la maire de Marseille, Michel Rubirola. Mm-hmm. On a parlé avec Adrien Quatennens.
Ouais.
C'est le problème avec les maires de Marseille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Julie, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Soit ils restent 92 ans, soit ils partent au bout de 6 mois. Michel Rubirola propose d'échanger de poste avec son premier adjoint. On ne savait pas d'ailleurs que ça pouvait fonctionner comme ça.
Moi,
je découvre ces pratiques-là. D'ailleurs, je me pose la question. Du coup, moi, j'échangerais bien. Je vais poser la question d'ailleurs à la direction. J'échangerais bien mon poste avec Arnaud Lagardère.
Il voudrait peut-être, non ? On essaye.
Ça peut marcher. Ça marche ou... Bon, on verra. Donc, allez, l'autre info. J'arrête de parler moi parce que je me rends compte que cette radio tourne un peu autour de moi. L'autre info du jour, c'est Jean Castex qui a suggéré de ne pas envoyer les enfants à l'école jeudi et vendredi. Et là, les intégristes islamistes à qui on interdit de faire l'école à la maison ont donc 2 jours de joker pour radicaliser leur enfant à la maison un petit peu plus. Allez, attention, top chrono, vous avez 2 jours. Voilà, perso, je reviens à moi encore, je prie le ciel que mes enfants... Oui, parce que c'est un sujet qui me touche quand même, mes enfants à l'école. Et perso, moi, je prie le ciel que mes enfants n'aient jamais entendu cette info. Parce que, ben oui, imaginez, allez dire à des gosses qu'ils ont le droit de ne pas aller à l'école, mais quand on les emmène quand même. C'est un coup à ce qu'ils te haïssent jusqu'à leur majorité. Donc pas merci, monsieur Castex.
Et merci à vous quand même, hein, Mathieu Béliard. Allez, on va faire un petit point sur les fêtes avec notre président de la République. Mais auparavant, tiens, on va revenir sur votre idée là.
Oui, excusez-moi, madame Julie.
Quoi ?
Mon idée, non, ma grande idée. Mon idée historique, si vous voulez, mais soyez précise.
Alors, votre grande idée historique d'inscrire la protection de la planète dans la Constitution. Alors, monsieur
Macron, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est ça ma grande idée. L'inscription de la planète France dans la Constitution.
Alors, comment ça va se passer ?
Très simplement. On va demander, donc, bien sûr, aux deux chambres, c'est légitime, aux deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, car nous sommes dans un système, vous le savez, bicamériste, de regarder donc le texte, de proposer d'éventuelles modifications ou amendements. Le texte va faire la navette. On va ensuite proposer une révision constitutionnelle. Et puis, dans un délai raisonnable de 134 semaines, on va éventuellement modifier la Constitution. Mais entre-temps, les 150 citoyens de la Convention citoyenne en auront eu certainement assez, se sont retournés à leurs occupations et m'auront lâché la grappe. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est pas idiot.
Oui, je vous confirme.
Merci, Monsieur le Président. Bonne journée. Depuis hier, c'est donc la fin du confinement. On va en parler avec le Premier ministre. Bonjour, Jean Castex.
Bonjour, Madame Julie, Monsieur Béliard. Oui, je vous dis bonjour. Pardon, je vous dis au revoir aussi, parce que hier, je n'ai pas eu le temps de vous dire au revoir. Je suis parti un peu précipitamment. J'ai été tendu. Bien. Pourquoi aller savoir ? Et attendez, j'ai mis mes lunettes.
Oh non, ça va pas recommencer.
Attendez, je suis allé aux toilettes en arrivant. Je les avais, mais pourquoi ?
Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'ai des feuilles de papier toilette dans mon étui à lunettes ?
Oh non !
Qu'est-ce qui a pu bien se passer ?
Bon, écoutez, vous les retrouverez plus tard. Hein. Bon, allez.
C'est pas le sujet occupe ce matin.
Non, le sujet, c'est la fin du confinement.
Pas mis un pantalon, moi, ça. Alors, oui, pardon. Alors, voilà. Et oui, la fin du confinement, c'est un vrai sujet. Nous quittons la phase du confinement. Il est désormais inutile de sortir avec une attestation.
Oui.
L'attestation, vous pouvez sortir sans attestation, mais jusqu'à 20.
Oui, mais on sait.
Il vous faudra une attestation, mais qui sera plus contraignante que celle d'hier. Après 20 heures, il faut quand même l'attestation.
Oui.
Avant, non. Contrairement à la journée où elle est moins contraignante, mais elle dure plus longtemps.
Bah écoutez, j'ai rien compris, moi.
Non ?
Non.
Mais si, non, mais non. Comme le nombre. Je vous explique. Je comprends que c'est un sujet... oui, c'est pas... Voilà.
Oui, bon, allez-y.
Comme en fait, je vous explique, le nombre de contaminations baisse, nous desserrons la vis, mais comme il augmente un peu aussi, car il faut être réaliste, nous la resserrons quand même un petit peu. En même temps
mais attendez,
que nous
il baisse...
la desserrons, le sens aiguillement pour le sens inverse, et c'est pas simple de comprendre,
attendez,
surtout pour
s'il vous plaît.
Mais vous, Madame Horloge,
sans ces aiguilles de montre. Vous devez maîtriser.
Je connais. Alors, il baisse ou il augmente le nombre des contaminations? On n'a pas compris, là.
Eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, les deux à la fois. Hein, ça augmente et ça baisse. C'est très technique. C'est technique. T-E-G, N-I-K. C'est technique. C'est scientifique. Et même moi, je vais vous avouer, je n'ai pas très bien saisi, mais c'est pour ça que je vous suggère de vous auto-confiner.
Oui, bon.
Et c'est notre nouvelle ligne directrice. On nous a trop reproché de vous parler comme à des enfants. Du coup, on prône donc désormais l'auto-confinement. Voilà, en clair, voilà. Auto-démerdez-vous, hein. Auto-soignez-vous, auto-sauvez votre derche, comme disent les jeunes, parce que je suis connecté. Voilà, vous voyez bien qu'on est paumé. Voilà. Comptez sur vous. Hein, comptez sur vous. Voilà, on vous traite en adulte pour une fois, vous devriez être content, non ?
Ouais, mais bon, alors, Jean Castex.
Voilà.
Alors, vous maintenez le slogan « Si ça table ».
Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Cabron ?
il fait des commentaires, là. Je...
C'est long, voilà.
C'est long.
Je ne commente pas la longueur de vos bulletins météorologiques.
Allez,
je ne me permettrai pas. Donc, chacun dans son domaine de compétence.
Monsieur Castex, on revient à vous. Vous soutenez...
La drôlerie est un sujet qui, parfois, demande de la longueur.
C'est bon. Alors,
je peux faire la matinale en entier si monsieur Cabrol me provoque.
C'est bon, allez. Jean Castex, vous maintenez le slogan « si ça table ». Ben, on va prendre un exemple tout bête. On prend le cas d'une famille avec un papa, une maman, trois enfants. Ben, ça fait 5 personnes. Si on invite papy et mamie, on passe à 7. Alors, on fait comment ?
5 personnes, et si on invite papy et mamie, on passe à 7.
Oui.
Non, vous avez raison de m'interpeller. Bonne question. Écoutez, nous n'avons pas abordé ce sujet. Je n'ai pas le temps actuel d'appeler le conseil scientifique.
Non, mais allez-y, là.
Attendez,
vite.
Je regarde quelle heure est 8h53. Ou le président Macron, ou alors... Si je pourrais consulter le Sénat ou l'Assemblée, ils dorment encore. L'Assemblée, je ne sais pas si c'est ouvert. Est-ce que j'ai le droit de l'appel à un ami ?
Non, il n'y a pas écrit Jean-Pierre Foucault là, hein, s'il vous plaît.
Oui, donc bonne question. Alors écoutez, je vais prendre une mesure puisque vous m'interpellez. Pour les gens donc qui ont malheureusement encore leur papy et leur mamie.
Oui,
car tout le monde n'a pas eu la chance de perdre l'un des deux.
Non, mais arrêtez.
Ce qui faciliterait la tâche pour l'organisation du plan de table. Et donc, il reste, ceci dit, il reste 9 jours jusqu'au 24 décembre. Tout est possible, tout peut arriver par les temps qui courent. Et sinon, eh bien, je pense que le plus raisonnable est de choisir le plus vieux des deux. Et celui à qui il reste, celui qui arrive et qui reste avec certitude le moins de Noël à passer.
C'est logique finalement.
Bon, voilà. Allez, on est à la fin de l'émission, monsieur Cabrol est content.
On arrête là. Merci
non, ça
beaucoup.
Nous permettrait de gagner du texte
plaît.
Pour demain. On le met au frigo. Et donc, on pourrait passer la soirée tranquille.
tiens, on va récupérer un texte il y a 3 jours là, hein, pour terminer. On revient sur le vaccin Pfizer.
Regardez, touche, mettez la main sur la feuille. Il est à peine décongelé. Alors, donc, c'est un texte.
On revient sur le vaccin Pfizer et ses effets secondaires. Je crois qu'on a un patient qui voudrait témoigner en duplex. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. C'est Dominique Lomand.
Dominique Strauss-Kahn. Alors, vous avez essayé le vaccin Pfizer ?
Alors, pas exactement. Ah. Pas le vaccin, non. J'ai longtemps essayé les produits Pfizer sous forme de petites pilules bleues. Ah oui. J'en bouffais comme des Smarties.
Oh là là.
Et je connais très bien leurs effets secondaires. Il n'y a pas, je tiens à vous confirmer, il n'y a pas de perte de goût ou de perte d'odorat. Non, les produits Pfizer entraînent plutôt une perte de votre carrière politique. Une perte de votre dignité aussi. Et accessoirement, perte de son slip.
Oui, oui, on sait tout ça. Allez, hop.
Chut. Merci Nicolas Contelou.
Ils sont fous.
Et à demain. Bravo Philippe Cabrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, les auteurs de Nicolas. Demain, Nicolas Contelou et Julie pour une nouvelle revue de presque. En attendant, il y a Europe1.fr. Philippe Vandel nous a rejoint à 8h56. C'est Culture Média qui va démarrer. La matinée continue sur Europe 1. Et bonjour Philippe.
Exactement. Bonjour Mathieu. Dans notre info média du jour, on va parler de l'offensive contre les géants du web, Google, Amazon, Facebook, Apple, autrement dit les GAFA. Un plan a été présenté hier par la Commission européenne pour lutter contre leur puissance croissante et stimuler la concurrence. Mais est-ce qu'on peut vraiment contrôler leur utilisation? Une des meilleures spécialistes des marchés, de la régulation, c'est l'économiste Joël Toledano. Elle sera avec nous. Au sommaire également, un retour vers le futur. On est en 2050. Il est très vieux, Jean-Paul Roux. Il a 87 ans. Il est interviewé dans Rétroscopie. Par qui?
Hélène
par
Manarino.
Hélène Manarino. Et Jérôme Revon, le producteur, concepteur, ils seront avec nous. Et puis le chanteur Amir qui lance une opération solidaire. La culture s'offre, c'est magnifique. Et son nouvel album également en prime.
C'est la matinée qui continue avec une place belle à la culture. La culture, c'est essentiel et Europe 1 s'engage aux côtés des artistes, notamment tous les matins à 8h30 et dans Culture Média tous les jours de toute l'année avec Philippe Vandel. Je vais vous souhaiter une très belle journée, un joli mercredi. Pour ma part, je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.